With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. On est en 2019 et on reprend le cours normal des événements après deux émissions d'entretien qui étaient très cool, que j'ai adoré. Mais il faut reprendre. À un moment, il faut reprendre les choses au sérieux. Il faut reprendre le flux permanent des sorties, la tradition, remonter dans le canoë des sorties de jeu.
Canoë.
Le
canoë.
Je suis pas convaincu.
On est plusieurs, on fait du raft.
Ouais, voilà, dans le grand raft des sorties de jeux. Au programme aujourd'hui, on va parler de New Super Mario U Deluxe, de Kingdom Two Crowns, d'Onimusha Warlords qui revient, et on fera un petit détour par Bandersnatch, l'épisode de Black Mirror sur Netflix interactif, qui donc va jouer du côté des jeux vidéo quand même. Sur le fond et sur la forme.
On va en parler.
On va en parler. Patrick n'est pas content. Le reste du programme, vous connaissez la chronique de Jérémy, le com des coms. Et je commence par accueillir, pour la première fois en 2019, mes deux chroniqueurs favoris, le mur porteur.
Non, alors j'ai décidé qu'en 2019, je serai une colonne sèche.
Je ne maîtrise pas. On est trop loin. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Tout va bien?
Ça va.
Les fêtes se sont bien passées?
Ah bah oui.
J'ai été malade, mais ça va.
Ah oui, t'as été malade.
Pour 31, c'était nul.
Ouais.
J'ai pas pu faire la teuf.
Ah ouais, t'étais sous antibiotiques.
J'ai regardé les illuminations des Champs-Élysées sur BFM. Grosse soirée du 31, vraiment.
C'est... Ah ouais, bien.
C'est un vrai du rêve, là.
Ah ouais, gros rêve.
Et le feu d'artifice?
Et le feu d'artifice.
Ah bah oui.
Ah oui, non, mais on sait faire les choses en grand. Oui, ça va mieux, bah, comme tu peux voir. Hein, ça va. Ça va un peu mieux. Parce que là, j'étais avec de la fièvre dans mon lit. Hein, c'était terrible.
Ah mince.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'on. Ben, on commence par quoi? On commence par toi, Patrick. Ouais.
Allez, on va commencer par des mauvaises nouvelles, ou plutôt des nouvelles très préoccupantes, du côté des jeux vidéo Star Wars. Alors oui, quand on dit jeux vidéo Star Wars, ça fait rêver, parce qu'on a eu on a vécu des grands moments derrière nos manettes et nos claviers autour de l'univers Star Wars. Hein. L'âge d'or.
Tant quand même.
Ah, LucasArts. Moi, pour moi, il y a eu vraiment un moment où LucasArts, au début des années 90, quand ils récupèrent la licence et qu'ils font des jeux, vraiment, il y a des très belles choses, hein, les X-Wing, tous les jeux. Il y a eu vraiment un âge d'or. Là, c'est plus compliqué en ce moment. Hein. Et puis là, les dernières news qu'on vient d'avoir, c'est pas très, très rassurant. Grosse rumeur qui semble plus ou moins confirmée. Hein. C'est l'annulation du jeu en open world qui était chez EA Vancouver, qui était en développement depuis fin 2017. C'était un développement un peu compliqué parce que c'était un rattrapage du projet qui avait été lancé chez Visceral Games, qui était... Moi, je regrette toujours ce studio. Hein. C'était les gens qui avaient fait Dead Space. Mm. C'était cultissime. On disait Dead Space, les mecs, ils ont un savoir-faire de mise en scène, ils ont une pêche pas possible, qui s'attaque à Star Wars, il y avait beaucoup de choses à faire. Bon, ça a été fermé, donc Vancouver avait récupéré le projet, qui avait commencé à être retravaillé, d'autres personnes qui bossaient dessus, on passait en open world, bon bah c'est annulé, donc voilà... C'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors là, où on en est aujourd'hui, je crois qu'il y a Respawn, hein, le studio Respawn, c'est Titanfall, qui avait annoncé, je crois, à l'E3 dernier, juste un nom, Jedi Fallen Order. Donc on sait qu'il y a un jeu en développement chez eux. Mais on sent que c'est compliqué quand même. Hein. C'est quand même compliqué. On imagine qu'il y a un Battlefront 3 qui doit être aussi dans le pipe à un moment ou un autre, mais c'est pas moi ce qui me fait rêver le plus.
Voilà, mais c'est pour ça que je te dis, on a vécu des bons moments ces dernières années. Le dernier bon moment Star Wars, c'est KOTOR. Quand même, enfin,
c'est KOTOR. Il y a eu un semblant avec la campagne solo dans Battlefront, mais c'était vraiment qu'un ajout additionnel, c'était pas le cœur du jeu. Pour moi, Star Wars, je sais que je bloque là-dessus.
Mais... Il y avait le MMO, le deuxième MMO qui était pas trop mal, mais
The Old Republic,
Old Republic, ouais. Bah, moi, je reste, enfin, la Jedi Knight, quoi. Jedi Knight, on a eu des choses comme ça à l'époque qui étaient et pour moi c'est du narratif Star Wars, on a besoin d'avoir des histoires. Alors c'est très bien qu'on ait des jeux en ligne, qu'on ait du Battlefront, pourquoi pas.
Et encore Battlefront 2 ça a été une catastrophe en termes d'image,
avec les loot box,
business,
évidemment c'était compliqué, mais on veut des jeux solo. Moi je veux 13-13, le projet qui a été annulé, pareil, moi, ça m'envoyait du rêve, je veux ça, moi je veux des jeux qui nous racontent une histoire.
Il y a une vraie malédiction sur les jeux Star Wars.
Et ça commence à ressembler effectivement à une malédiction Star Wars, alors que tout est là. Et c'est frustrant, parce que dans les années 90, on a eu des belles choses, alors que c'était encore compliqué la techno. On est en 2019, on a aujourd'hui il n'y a quasiment plus de limites, on va dire. On a une nouvelle génération de machines qui arrive, on va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut, on sent que ça patine et que c'est compliqué. Donc espérons qu'on aura des bonnes surprises. Mais...
Je me demande si Disney regrette d'avoir fait ce deal avec EA à l'époque sur l'exclusivité.
C'est impossible,
des...
ça on le saura peut-être un jour.
À moins que ça soit Disney le problème, on ne sait pas en fait.
C'est pas impossible non plus. Quand on voit l'état de la série au cinéma, c'est quand même compliqué. Hein. Mmh. Là, il y a le 9 qui va arriver l'année. Cette année, je crois que fin 2019,
année,
hein. Donc on va commencer à entendre parler. Bon, c'est quand même pas, c'est pas d'une, comment dire, d'une tranquillité absolue. Donc bon, on verra ce
qui
se passe.
C'est marrant, mais je fais juste une petite digression. En fait, c'est aussi quand tu vois les grandes licences. Fantasy geek, on va prendre dans le large le Seigneur des Anneaux, la Guerre des Étoiles, même des trucs un peu plus modernes genre Harry Potter, enfin qui ont des potentiels comme ça de pop culture absolument phénoménal. Mm-hmm. En jeu vidéo, on n'a jamais eu des gros trucs. Alors après Star Wars, oui, versus X-Wing versus TIE Fighter, Jedi Knight et tout ça, c'était. Mais on n'a pas de jeux qui sont à l'équivalent de ce qu'on a trouvé dans l'univers cinématographique. C'est quand même étonnant que Harry Potter. Bon, il y a des rumeurs de reprise de Harry Potter en jeu vidéo, un de ces quatre, je crois.
Il y a Wizards Unite là qui arrive, c'est le Pokémon Go Harry Potter qui va arriver.
Ouais, bon, on n'est pas à l'échelle du truc.
Ah bah après c'est toi qui juges, hein. Moi j'appelle ça quand même un gros jeu, et ça, si ça a une, bon, ce sera sûrement pas aussi gros que Pokémon Go, mais ça pourrait devenir aussi un mini phénomène, tu vois. Mais après
on a du mal à égaler sur des mythes comme ça, ce sont des vrais mythes pop. On a du mal à avoir des jeux aujourd'hui qui s'alignent là-dessus,
mais on a d'autres trucs. On a des God of War, on a des mythologies propres aux jeux vidéo qui
créent eux-mêmes et qui sont parfois reprises en film ou dans d'autres supports. Mais effectivement, on a du mal sur un, c'est tellement emblématique Star Wars, et on est en 2019. Je parlerai au mois des années 80, je lui dirais, en 2019, c'est un peu compliqué le jeu Star Wars, j'hallucinerais sûrement en disant, mais c'est pas possible avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui.
C'est moins compliqué. C'est plus compliqué en termes légal. En fait, il y a plus d'acteurs, il y a plus d'enjeux, on sait que ça peut rapporter de l'argent, ça coûte plus cher aussi à faire,
pourtant,
ces choses comme ça.
Et il y a pourtant des fulgurances. Moi, je me rappelle encore de cette section en réalité virtuelle de Battlefront 1. Les 30 minutes, 40 minutes en réalité virtuelle, elles m'ont envoyé du rêve. C'était qu'une section trop courte. Ouais. Et on disait, mais pourquoi ils n'ont pas fait un X-Wing en réalité virtuelle, où il y a des choses à faire. Et
il s'appelle Elite Dangerous, hein.
Oui, mais t'es plus dans le même univers. C'est autre chose.
C'est pas Star Citizen alors finalement. Ah merde, dommage.
Mais bon, bref, bon, c'est compliqué. On verra. Ouais. Espérons
qu'il y aura. On sent que t'es déçu en tout cas.
Qu'il y aura des surprises. Peut-être, on verra.
Moi, j'en attends plus grand chose en fait. C'est ça mon truc. J'attends plus grand chose d'un jeu Seigneur des Anneaux. J'attends plus grand chose d'un jeu Star Wars.
T'avais une sorte de griffe LucasArts à une époque aussi. Tu savais que derrière,
Faut arrêter de trop parler à ton moi des années 80, tu sais.
Mais peut-être que je lui dise au revoir, mais c'est trop triste parce que je veux qu'il reste avec moi.
De toute façon, on a lu le même livre de Jason Schreier, d'ailleurs, qui a sorti l'info sur Star Wars.
Bien sûr.
Il est toujours là. On va parler d'Activision tout à l'heure, mais c'est encore lui qui a sorti. Il est très fort. Quand on lit la fin de 13-13, ça fout le cafard.
C'est exactement.
Les mecs vont supplier Visceral pour qu'ils reprennent le projet. Les mecs font, ah non, mais nous, en fait, on les joue reprendre les gens. C'est terrible l'histoire des jeux Star Wars.
Voilà, a priori, d'après ce que j'ai pu lire récemment, il n'y a pas eu de casse au niveau salarié avec ces différences.
C'est déjà ça.
De dossiers qui repartent. Il n'y a pas eu de casse, a priori.
C'est l'avantage et le désavantage d'IA, c'est qu'ils ferment des studios talentueux comme Visceral. Mais après, bon, ils ont d'autres studios, donc les gens...
Et ça, il faut le saluer. C'est important aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe.
C'est pas non plus des enfants de cœur, mais oui, bien sûr.
Il n'y a pas eu de casse au niveau des salariés, c'est important. Allez, deuxième news rapidement, parce que c'est une news importante. Elle est passée comme ça et elle a fait un peu de bruit quand même, c'est pas rien. On sait qu'il y a The Division 2 qui arrive mi-mars. Alors, c'est un jeu quand même important chez Ubisoft, parce que le premier, il date quand même de quelques années. Il avait fait sa vie, il avait quand même réussi à créer une communauté. communauté de joueurs qui avait bien accroché à son style entre Destiny, jeu de tir troisième personne connecté avec une communauté qui s'est bâtie. Puis là, le deuxième est attendu parce qu'il doit confirmer tout ça. Et on a appris que le jeu sortirait donc sur le Ubi Store, donc la boutique sur PC, je parle de la version PC, sur la boutique Ubi et sur le Epic Store, mais pas sur Steam. C'est pas rien quand même, c'est quand même un sacré pari, c'est un gros titre, c'est un triple A qui sera pas sur Steam. On voit que la guerre des plateformes commence vraiment à se mettre en place, que des gros éditeurs comme Ubisoft tentent le coup avec Epic sur un titre quand même stratégique, hein. On parle pas d'un jeu de série B, c'est vraiment un jeu important, donc c'est pas rien. Et ça confirme qu'en coulisses, il y a une vraie bataille entre Epic, Steam qui se développe. On le voit hein, dans les annonces, Epic qui s'aligne dans ses process avec Steam, qui veut vraiment découdre, a priori.
Il sera sur Uplay ou pas ?
Ah oui, je pense, bien sûr. Oui, il sera sur
Ubisoft. Ça aurait été drôle qu'il soit uniquement sur Epic et pas sur Uplay quand même. Ça aurait été un peu un aveu d'échec.
Ah, mais en tout cas, voilà, c'est un voyant important de ce qui se passe. Pas forcément à nos yeux, mais en coulisses, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent.
Après, on peut rappeler aussi qu'en 2017, puisqu'on va parler de Destiny, Destiny 2 n'était pas sorti sur Steam non plus. Il était sorti uniquement sur Battle.net.
Ouais, bien sûr, mais oui, ça fait partie aussi de cette bataille des plateformes.
D'ailleurs, est-ce que ça n'a pas plombé puisque les chiffres de vente apparemment sont décevants apparemment d'après le conseil exécutif d'Activision.
Mais je pense que tu vois qu'un Ubi mise aujourd'hui sur Epic, tu te dis il y a quand même une dynamique, il y a un truc, il y a une dynamique. Et puis évidemment, je pense que quand tu mises aujourd'hui tes éditeurs comme Ubi, tu te dis au lieu d'être peut-être noyé dans Steam, parce que Steam aujourd'hui c'est colossal, j'avais vu un chiffre, ils annoncent 90 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est colossal, on sait que la boutique elle est bon. Et tu te dis peut-être qu'Ubi se dit en étant chez Epic, Epic va me soigner quand je vais sortir en mars.
Et surtout,
ils vont pousser, ils vont mettre en avant.
Non mais puis
c'est
surtout,
un pari.
Surtout il y a aussi les royalties, ils prennent
moins. Bien sûr, il y a
des prennent moins.
Qui sont importantes. Mais plus que ça, je pense que c'est aussi une question de mise en avant, de valorisation de ton jeu. C'est pas anodin.
Je pense qu'il y a un gagnant-gagnant avec Ubi. Ubi tente un coup en étant un petit peu sur une plateforme un peu plus dégagée et Epic se fait une street cred en récupérant quand même une grosse licence qui est censée sortir. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour moi.
Bien sûr, mais en tout cas c'est à saluer.
T'as fabriqué ta propre transition, Corentin, en parlant de Destiny 2.
Très droite.
Pendant les deux news de Patrick, j'ai parlé de Destiny et d'Activision.
Et là, c'était pour introduire Bungie.
Bungie qui se sépare d'Activision après 8 ans ensemble, hein, donc on partage les gosses, tout ça.
Les meubles.
Alors apparemment, le partage a plutôt été en faveur de Bungie hein, dans cette histoire, puisqu'ils récupèrent la licence Destiny, qui était un petit peu leur bébé.
Leur IP en fait, c'est l'IP, ils gardent le nom.
Ils gardent l'IP et les droits intellectuels dessus, pendant qu'Acti récupère les droits de publication et d'exploitation des anciens épisodes. Grosso modo, ce qui est normal après tout, parce qu'on va pas tout bouger, c'est débile. D'ailleurs, ils ont garanti pour rassurer leur fanbase que il y aurait continuité du service sur Destiny 2. C'est pas à l'ordre du jour de l'arrêter, quoi, et ça restera sur Battle.net.
Il faut pas, enfin en même temps, ça tuerait la.
Il y a parmi les tensions entre Bungie et Activision venait justement le fait que Destiny 2 marchait pas assez bien au goût de.
Des déceptions.
Ouais, au goût d'Activision, et qu'Activision demandait un petit peu à Bungie, il faut du contenu pour pouvoir le vendre, il faut du contenu. Et puis bon, d'un moment, Bungie se rappelant de ce qui leur était déjà arrivé 8 ans auparavant avec Microsoft, on en a eu un peu marre. D'ailleurs, apparemment, l'annonce de cette séparation a été accueillie par des vivas dans les studios de Bungie. Je sais pas si on dit Bungie ou Bungie d'ailleurs.
Moi je dis Bungie, tu peux faire comme tu veux. Hein.
Et oui, donc ça rappelle évidemment cette histoire qu'il y a eu, et on se dit quand même, Bungie a toujours cette relation pas autodestructrice, mais je sais pas.
Il y a un truc un peu. Ouais, les vivas, comme tu dis, dans le studio, ils ont signé.
Mais ils ont fait la même chose avec Microsoft. Ouais, c'était pareil, quand ils ont annoncé, pareil, ils étaient très heureux et ça. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils signent, ils sont heureux.
Et
au bout d'un moment, ça éclate. Ils attendent 6, 7, 8 ans.
Surtout que là, ils n'étaient pas très loin. C'était un contrat sur 10 ans, dans mon souvenir. Ils n'étaient pas très loin de la fin. On parlait d'un an ou deux. C'était la fin. En gros, c'était la fin de Destiny 2 et sûrement la transition vers le 3 et la next-gen. J'imagine, grosso modo.
Je connais pas les détails du contrat, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire aussi de nombre de jeux à sortir.
C'est probable.
Quoi qu'il en soit, je sais pas si Bungie va. je pense pas que Bungie ait les reins suffisamment solides pour s'auto-éditer.
Compliqué, ouais.
Donc, je sais pas vers qui ils vont frapper, hein, honnêtement.
Epic Games.
Epic. Oui. Ça serait fun, cela dit. Ça serait fun.
Bon, je pense qu'à mon avis, oui, il y a des
portes ouvertes. S'il y en a qui ont du pognon et un savoir-faire, c'est clair. Ça, je veux pas dire. Bah, mais...
T'annonces, hein, oui, un Destiny 3 en exclu, machin.
En tout cas, là, il y aura pas, on va dire, de traumatisme lié à la perte d'un bébé, puisque là, ils récupèrent leur licence alors qu'ils avaient perdu Halo à l'époque et ça les avait bien embêtés. Donc, je pense que là, en tout cas, ils peuvent repartir et ils arrivent déjà avec Destiny dans la poche, même si ça a jamais été des succès extraordinaires. Destiny, ça reste une grosse licence.
Courage au prochain éditeur qui les signe, hein, parce que c'est ça. Là, faut vraiment les
aller. Puis au rayon des bonnes nouvelles, mauvaise nouvelle, puisque la première meilleure semaine de l'année vient de se terminer, puisque la GDQ s'est terminée dimanche dernier. Donc, ça va dimanche dernier, si c'est le podcast sort mercredi. Avec encore un record battu, hein. J'y croyais pas, à titre personnel, parce que quand je suis allé me coucher, c'était pas du tout parti pour battre un record. Et puis, en fait, je suis allé me coucher, il s'est passé des trucs, et puis ils avaient battu le record. Ils ont atteint les 2,39 millions de dollars. Donc, c'est pour la Prevent Cancer Foundation, qui est une ONG pour lutter contre le cancer. Et ils avaient battu, donc, leur record de 2018 qui avoisinait les 2,3 ou 2,29 millions de dollars. Par exemple, là, je suis crevé parce que cette nuit, je me suis dit, tiens, je vais mater la run 100% de Wind Waker HD qui dure 6 heures. Pourquoi pas, hein, en fait.
Ménage-toi.
Mais voilà, pourquoi pas.
Et pourquoi pas, après tout. Genre, j'en ai maté 3 heures avant de me dire que 4 heures du matin, ça commençait à être une heure pour se coucher. Il y a de très bonnes runs. Je vous recommande la run de Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, où ils vont jusqu'au Darker Side, donc c'est il faut avoir 500 lunes, donc c'est beaucoup de lunes.
Même, c'est costaud,
Et c'est justement là où tout s'est emballé en termes de dons et ils ont explosé les records. Il y a la toute dernière run, la Reverse Boss Order de Metroid, de Super Metroid. Donc le but, c'est de prendre les boss, mais de les tuer à l'envers, c'est-à-dire de tuer d'abord le dernier boss, puis l'avant-dernier boss, puis machin. C'est très compliqué. Il y a plein de très bonnes runs à mater. Donc je vous conseille, tout est en ligne sur sur la chaîne YouTube de la GDQ, enfin plutôt GDQ sur YouTube. Et ils ont annoncé les dates de la SGDQ, qui est la deuxième meilleure semaine de l'année, je le rappelle. Et ça aura lieu du 23 au 30 juin prochain. Et là, ça sera pour Médecins Sans Frontières, si je ne m'abuse.
Formidable.
Voilà. Et puis, ils ont annoncé un film Just Dance aussi, parce que pourquoi pas. Je voulais juste le dire.
Un
film Just Dance.
Un film.
Ne me demande pas de détails, j'en sais rien. J'ai juste vu, ils ont annoncé un film Just Dance.
Un film au cinéma.
Ouais, un film au cinéma. C'est genre, tu payes une place, tu t'assois, tu restes assis, tu fais pourquoi ils ont fait un film Just Dance, tu sors.
Il y avait bien un film Tetris qui était dans le pipe, je sais pas où ça en est, mais
il y a un film
Missile Command aussi, non, il y avait pas ça.
Techniquement, il y a eu un jeu touché coulé là.
Oui, Battleship. Ouais. Donc, j'ai toujours pas vu. Alors. Je sais pas ce qu'il
vaut. Pourtant, c'est très Patrick Corp.
Ouais, pourtant, tu devrais je savais même pas. Bon, on va surveiller ça de près. Ouais.
Alors, le com des coms de l'année dernière. Le com des coms de l'année dernière, c'est quoi? C'est le palmarès des jeux 2018 et des auditeurs de Silence en Joue. Grande tradition, hein, pour ceux qui ont suivi. Alors, on a trois grandes catégories, mais on va évidemment commencer par la catégorie reine, hein, le top 10. Alors, le top 10, qu'est-ce que ça donne? Alors, à égalité, alors il y a deux égalités, hein. Il y a l'égalité à la 9e et 10e place, hein, justement, entre Assassin's Creed Odyssey et Detroit Become Human.
Ouais.
Ça me fait plaisir. Ça fait quelque part, ça fait un plaisir parce qu'en fait, je croyais que Detroit n'était rentré dans aucun top 10, en fait, mais.
Non, il est polémique quand même.
Oui, non, il est polémique, mais c'était étonnant. On se faisait la remarque avec Marius l'autre jour. On se disait quand même, quand il est sorti, il y avait des gens qui n'avaient pas aimé, des gens qui avaient aimé, tout ça. Et c'est vrai qu'en bilan de l'année, il était très absent. Mais bon,
il y a eu des colosses en face, quoi. C'est vrai que du coup.
Alors à la 8e place, nous avons Return of the Obra Dinn.
8e seulement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et 6e et 7e place, égalité entre Hitman 2 et Subnautica. 5e place, nous avons Into the Breach. Et alors, le top 4, c'est 4e place, Red Dead Redemption 2.
Ah ouais?
Et oui.
Ça alors, je m'y attendais pas.
3e place, Dead Cells.
Ah oui.
2e place, God of War. Je te laisse la première place.
Grave, mais c'est super, Céleste, c'est ça, c'est Céleste.
D'ailleurs,
si vous avez aimé Céleste, apparemment c'est le cas, chers auditeurs, des nouveaux niveaux arrivent bientôt. Un dernier chapitre, un tout dernier chapitre, un farewell chapter. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de DLC, qu'il n'y aurait pas de suite. Ils veulent fermer le chapitre de Céleste. Mais pour remercier leurs fans, ils vont faire un tout dernier chapitre.
Classe.
Gratuit. Mais ça, c'est gratuit, classe. Absolument. Gratuit, absolument.
Donc, Céleste, jeu de l'année 2018 pour les auditeurs de Silence on Joue. Après, nous avons deux petites mini-catégories. Hein, les meilleures surprises. Les meilleures surprises, eh bien, nous avons en première place, et ça fait plaisir parce que quand même, là aussi, peu présent dans les tops 2018, nous avons Nintendo Labo. Meilleure surprise 2018.
Oui, tu vois, il n'est pas non plus dans des tops c'est Nintendo vrai. Labo, mais je trouve que c'est en effet quelque chose d'original. Et il rentre très bien dans la surprise.
Voilà, la surprise de l'année. Deuxième place, deuxième surprise de l'année. Ça va aussi te faire plaisir, Corentin. Do Not Feed the Monkeys.
C'est vrai que c'est un titre étonnant aussi. Ouais.
Et troisième meilleure surprise, bah, c'est la meilleure surprise qui était top 1. Hein, c'est Céleste. La troisième meilleure surprise de l'année 2018.
Que vous avez fait tout Orfo avant, c'était pas non plus des perdreaux de l'année.
Ouais, mais personne ne l'attendait à cette place-là, sans doute.
Cool. Et alors, moi, je suis content, vive Céleste.
Ce qui est assez marrant aussi, c'est le top de la déception. Hein, de la déception. De 2018. Eh bien, alors on va faire en inverse. Hein, donc, à la troisième place, nous avons Far Cry 5 qui arrive.
C'est vrai qu'il y a bien
À la deuxième place, moi que j'attendais plus haut dans ce top de la déception, c'est Fallout 76, hein, bien sûr.
Grave.
Bah, oui. Oui, on ne peut pas comparer que Far Cry. Hein.
Et alors, la plus grosse déception 2018, Red Dead Redemption 2.
Ah ouais,
qui arrive en quatrième place du top 10 et en première place des déceptions.
Mais en fait, maintenant, ça. Ouais, en fait, c'est logique, il clive en fait. Ouais. Je pense que pour le coup, la couverture presse de Red Dead n'était pas très représentative du ressenti public de Red Dead. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont adoré et qui ont compris la proposition, mais vraiment très fort.
Il fallait adorer à la proposition.
Exactement.
Hein, très particulière.
Mais et sincèrement, et je ne suis pas forcément quelqu'un qui va être attiré par Red Dead, mais je préfère qu'un jeu polarise et quelque chose à proposer. Que tout le monde soit d'accord parce que c'est un peu fade finalement.
Et je suis d'accord sur Detroit, effectivement il a polarisé aussi, mais il est moins cité alors que c'est quand même on en reparlera peut-être après quand on va parler de Netflix, mais il a amené des choses hein, Detroit, qui reste, quand tu joues aujourd'hui un jeu d'aventure, tu repenses à ses mécaniques, à sa façon de montrer le champ des possibles qui pour moi a quand même bien imprimé le genre, mais bon, on en reparlera.
On pourrait en reparler, mais bon, on pourrait... Eh bien, écoutez, on va commencer cette année 2018 des sorties avec, évidemment, dans cette année 2018 des sorties, dès 2019, pardon, on parlera beaucoup de jeux sortis en 2018. On va commencer par cet épisode un peu étrange, très bien annoncé à grand renfort de communication hein, par Netflix, cet épisode spécial de Black Mirror qui s'appelle Bandersnatch. When it's a concert piece, a bit of madness is what you need.
You're not hearing voices, or
no voices, but there is something.
Bandersnatch was the final score. Relax, don't you ever.
Donc, aux commandes de Bandersnatch, donc épisode spécial hein, de la série très connue Black Mirror. Aux commandes, c'est le scénariste de la série, hein, Charlie Brooker, qui a écrit et c'est réalisé par David Slade. On est en juillet 1984.
Il y a Frankie Goes to Hollywood qui passe à la radio. Mais ça fait plaisir.
Je suis content qu'on traite enfin des années 80, parce que c'est une période qu'on voit pas assez souvent dans la pop culture. Non, mais c'est vrai, plaisir. Hein,
ouais. Et alors, le pitch... Le pitch initial, un programmeur de 19 ans qui s'appelle Stephen Butler, qui veut adapter un bouquin dont vous êtes le héros, qui s'appelle Bandersnatch, qui est écrit par un certain Jérôme F. Davis.
Ah, et voilà. C'est Philippe qui a dit que le mec c'est fou, mais donc, j'ai dû rater quelque chose.
Et donc on est à l'époque, on est en 1984, donc c'est les jeux de 1984.
Oh, hein. Je l'ai 1984, c'est malin quand même, hein. C'est bien foutu. Hein. Waouh, incroyable.
Donc Bandersnatch, on avait déjà eu hein, sur Netflix quelques propositions de séries interactives. Il y avait le Chapeauté, qui avait eu un épisode, c'était il y a déjà plus d'un an et demi, je crois. Il y avait le Minecraft Story Mode, le testament hein, de Telltale qui avait débarqué. Et là, dans une version un petit peu améliorée, disons, où ils ont un petit peu travaillé l'aspect technique, parce que les deux précédents, on était vraiment sur un freeze. Est-ce que vous voulez aller à droite, à gauche, avec deux gros choix, une interface un peu des années 50, mais c'est pas grave. Là, on retrouve quelque chose qui se rapproche de, en tout cas en termes d'interface, de Late Shift, hein, donc quelque chose de beaucoup plus fluide.
Seamless. Beaucoup plus.
Beaucoup plus fluide quand même par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que les choix ont lieu pendant que l'image continue, pendant que le son continue. On doit faire un choix assez rapide. On a 10 secondes pour choisir à chaque fois. Et en fonction du choix, l'aventure continue d'une manière très fluide. Donc, alors, ce qui met quelques contraintes quand même au niveau Netflix, c'est-à-dire que ça ne se joue pas. Il ne peut pas se jouer en mode interactif sur les box. Moi, sur ma box, à moi, j'ai dû le lancer sur la PlayStation 4.
Il te disait que c'était pas possible. Voilà,
c'était pas possible.
Oui, sur mon téléphone, il pouvait pas. Pourtant, il n'est pas si vieux, mais.
Oui, c'est assez exigeant au niveau hardware. Bah, c'est pour effectivement, c'est l'interface qui demande choix de mémoire tampon. Enfin, c'est un truc assez technique, mais qui fait qu'il faut une bécane quand même qui peut se permettre ce genre
de. Donc, on est quand même sur Black Mirror. On est sur la première série importante entre guillemets pour adultes qui utilise le système de narration interactive. Je me tourne vers toi, Patrick. Ouais. Tu n'as pas été hyper convaincu.
Alors, c'est vrai que les premières minutes sont jouissives. Hein. Comme on disait 84, l'ambiance, surtout de ces codeurs des années 80. Il y a toute cette mythologie qu'on connaît un petit peu quand on s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a eu une époque comme ça, un peu un âge d'or, un peu mythologique aujourd'hui, avec ces codeurs qui bossaient seuls sur des bécanes préhistoriques, mais qui avaient qui se débrouillait souvent à créer un jeu tout seul ou à deux. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a toute une imagerie autour de cette époque, notamment en Angleterre.
Un petit aspect rockstar d'ailleurs. Ouais, ces gens-là qui arrivaient à faire tout rentrer dans la cartouche quand même.
C'est ça. Et du coup, alors ça c'est très bien fichu, c'est vrai que les premières minutes. Mais non, Netflix, vous ne m'aurez pas parce que vous mettez relax comme ça dès le début de l'épisode. Non. L'ambiance m'a tout de suite branché parce que ça titille des fibres nostalgiques chez moi que j'assume totalement. Moi j'étais beaucoup plus j'ai fait l'expérience, hein, j'ai joué l'épisode et j'en suis sorti en me disant que c'était pas un bon Black Mirror déjà en termes d'épisode. Moi, si on parle de, il faut tout de suite faire un disclaimer. Ça reste fascinant quand même d'être devant un épisode de série ou un film, parce qu'on est plus sur un format film. Et d'avoir l'interactivité dans les mains. Ça reste quelque chose de fascinant, et ça, je pense qu'il faut que ça se développe. Il y a des choses à faire. Il faut continuer à travailler. Là, je pense qu'on a un premier test. On sent que c'est un peu balbutiant. Il y a des choses qui marchent pas très bien. On n'est pas très à l'aise, je trouve, avec les mécaniques. Je trouve que c'est un peu fouillis. Mais moi, vraiment, ce qui m'a ennuyé déjà, c'est au niveau narratif. Quand j'ai fini l'épisode, je me suis dit c'est pas un bon Black Mirror. Moi, il y a des Black Mirror qui m'ont marqué, on en a déjà parlé ici, parce que notamment l'épisode Star Trek, enfin Starfleet, grand épisode qui parle du jeu vidéo, qui moi m'a vraiment fait me poser des questions sur l'IA, sur le comment tout ça évoluera dans le futur, ça pose un vrai rapport entre toi en tant que joueur et ton jeu vidéo. Et cet épisode là qui est un épisode linéaire, qui n'est pas interactif, te fait questionner sur je vois Erwan qui allait plus vite. Et non, moi vraiment j'ai eu du mal sur le gameplay, en fait, tout simplement sur les mécaniques. Moi, il y a des choses qui m'ont vraiment bloqué, c'est sur ces notamment pour rentrer vraiment dans les mécaniques. Ce sont ces boucles qu'on fait notamment vers la fin de l'expérience, où on revient comme ça, on fait le mauvais choix, hop, on revient en arrière, c'est automatique, et du coup on perd complètement il y a un côté die and retry quasiment qui s'enclenche très vite et qui fait qu'on n'est plus du tout dans une, pour moi, les Telltale ou les Quantique, tu traces ta voie, tu écris ton histoire avec ta manette à la main et tu vis ton histoire, qu'elle soit bonne ou pas bonne. On a eu des longues discussions, Erwan, sur Detroit notamment là-dessus, sur la viabilité d'une histoire que tu chapotes un peu à ta manière, avec parfois des imperfections, mais c'est ton histoire que tu assumes, et t'es content ou pas content, tu le refais pas, mais c'est ton histoire, c'est ton vécu que ton jeu. Et là, j'ai pas eu du tout cette sensation. J'ai eu une sensation un peu de die and retry, un peu maladroit, où des fois t'as une mauvais choix. Déjà, moi, il y a beaucoup d'impasses quand même malgré tout dans l'arbre, et qui te ramène en arrière automatiquement. Tu refais ton truc. J'ai pas trouvé ça très, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais j'ai trouvé que c'était assez
Je suis assez d'accord sur l'aspect narratif, c'est là où ça pêche le plus, parce qu'au niveau du reste, finalement, l'expérience marche bien. Alors, niveau gameplay, je serais peut-être pas aussi critique que toi. Bon, après, ça reste des doubles choix à chaque
fois.
Moi, juste ce qui m'a manqué par rapport au tel par contre, et ça c'est étonnant, c'est qu'on n'a pas le choix de ne pas choisir. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a manqué.
C'est vrai que c'est une touche à rien, comme tu dis, ça reste enclenché sur un des des choix.
Genre choix de gauche, a priori.
Alors que le silence peut parfois être une vraie entrée.
Mais, mais surtout, il y a des moments où aucun des choix me plaît. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ah, choisis, c'est toi qui as le pouvoir. Bah non, ce que là, tu me proposes, c'est soit casser mon ordi, soit casser mon ordi.
En même temps, c'est, là où on arrive à l'aspect méta du truc, c'est que ce n'est qu'un truc méta. Donc en fait, le fait de ne pas avoir de non-choix fait partie intégrante du récit.
Moi, j'ai trouvé ça un peu.
T'es soi-disant obligé. Il y a une notion de contrôle en fait dans cet épisode de Black Mirror. Comme tu le dis, c'est très méta et je vais approfondir ça juste
c'est
après.
Un peu forceps, quand même,
c'est ultra au forceps. C'est mal forceps, amené. Hein. Ouais, on va reparler. Moi, j'ai eu la fin. J'ai eu une des fins là, la fin Netflix. Mais je me suis jamais fait spalmer aussi fort, quoi. Franchement, c'est en mode, mais c'est nul, c'est mal amené.
Ouais,
et franchement, des expériences méta, j'en fais plein en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Tous les développeurs ont envie de faire des expériences méta avec les jeux qui s'éteignent tout seuls, ce genre de choses. Mais il y a tellement. Alors, je vais faire mon journaliste un peu hipster qui a déjà tout vécu, tout vu. Mais sincèrement, Telltale a fait mieux. Les Japonais ont fait mieux dans les VN.
Je suis assez d'accord.
C'est d'un pur point de vue narratif. En fait, cet épisode est mal écrit pour le format qui vise.
Ce qui est dommage pour un Black Mirror.
Ce qui est dommage.
Qui est quand même une référence dans le côté méta. Et...
Ouais, j'aurais préféré un arbre. Tout ce qu'il y a de plus simple, un peu plus linéaire, machin, avec une fin que tu auras choisie. On te propose éventuellement ce que tu vas revenir. Tu fais ce que tu veux ou bien c'est la fin.
Je suis assez d'accord.
Et avec un propos fort. Black Mirror, c'est des propos forts. C'est un high concept. C'est un truc, tu peux l'expliquer en deux phrases à quelqu'un.
Ouais,
c'est quoi nos dives? C'est tout le monde qui note tout le monde sur les réseaux sociaux. Et je peux te l'expliquer en deux secondes. Et c'est ça, non mais c'est vrai.
C'était pourri.
Là, c'est impossible à expliquer.
Et moi, j'ai surtout peur, c'est que nous, on est joueurs, donc moi, j'arrive avec ma grammaire de joueur, donc, qui est aussi fausse peut-être l'expérience. C'est qu'on arrive avec des attentes, on a joué au quantique, etc.
C'est
mais
le consensus.
Moi, je me pose la question du non-joueur total qui prend sa télécommande. Est-ce qu'il va vraiment, tu vois, qu'est-ce qu'il va capter de cette expérience?
Le consensus.
Et j'ai peur qu'il se perde complètement, qu'il n'ait pas du tout. Qui comprennent pas les logiques de retour en arrière, etc. J'ai peur que ce soit pas transparent.
Il y a un consensus avec lequel je suis assez d'accord, c'est que si t'as joué à d'autres expériences narratives, type The Wolf Among Us, ce genre de choses, ça va être plus compliqué parce que tu vas voir les ficelles, elles sont immenses. Et du coup, je pense que si t'es tout neuf, si t'es vierge, honnêtement, je recommande Bandersnatch. De toute façon, je recommande Bandersnatch à tout le monde.
Sûr,
ça essayer. Reste un tour de force. Je sais plus combien d'heures de films ont été faits, 5 heures, je crois, un truc comme ça.
Il y a 5 fins, enfin, il y a plein de choses. Mais.
Ça reste quelque chose qui est bien d'avoir été fait. Je suis content que ça ait été fait, mais franchement, l'exécution, elle pêche.
C'est bien joué, hein. Je trouve que les acteurs sont bons. C'est pas une question de
Colin, là,
d'acteur, oui.
J'ai oublié son nom là, de l'acteur, mais
le codeur fou là.
See you around. Il est génial.
Ah non, il y a des vraies fulgurances.
Mais il y a pas de propos. Tu sors
Moi,
de là.
Moi, je pense que c'est un premier pas. Je pense que Netflix, c'est un premier pas. On sent que c'est une expérience. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de jouer la carte Black Mirror tout de suite? Je suis pas sûr. Moi, j'aurais peut-être gardé pour plus tard. Et fallait peut-être se faire les dents sur autre chose avant.
Moi, je vais vous dire, j'ai bien aimé.
Vas-y.
Sauf que pour répondre à ta question, je pense que c'est un. En fait, le côté marrant, c'est que le mec de Black Mirror, il a pris ça et il a dit c'est le premier, le dernier. Je veux enfin j'épuise
Charlie
j'épuise
Walker était contre, hein, je crois là-bas.
Voilà, ça se sent. C'est-à-dire que le mec, il a épuisé la possibilité interactive dès le premier. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas passé par le côté « on va vous faire une vraie histoire interactive, on va vous démontrer que ça n'a pas de sens ». Et je pense que c'est une démonstration de l'inutilité de cette interactivité dans une narration audiovisuelle.
Enfin, en même temps, tu vois,
je trouve que justement...
Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je pense que tu peux vraiment créer des récits
Le débat est là. C'est cette question qu'il pose. C'est pour ça que tu dis que c'est pas un bon Black Mirror. Mais pour moi, c'est un bon Black Mirror parce qu'il pose la question même de sa propre existence. Et pour moi, il répond au truc en disant « Ouais, bah non, c'est... »
Je suis pas sûr. Moi, un bon Black Mirror, il te fait cogiter pendant des mois après l'avoir vu, il te reste dans la tête. Et là, je trouve que...
Ouais, il y en a pas eu beaucoup, quand même. Hein, mais
est-ce
qu'un mec encule un cochon? Enfin, bon, bref.
Ça s'est presque pas vérifié dans l'actualité, mais bon, les mecs, ils devaient avoir des infos, c'est pas possible autrement.
Bref, je trouve qu'il reste pas grand chose au final, je trouve.
Parce que je pense que c'est ça.
Il relève d'une vacuité assez terrible.
Un exercice qui s'autodétruit, c'est un peu inquiétant quand même.
On est dans une démarche totalement oulipienne,
tu peux le faire de manière subtile. Là, honnêtement, les ficelles sont grosses. Ils crament en effet la carte du méta, mais extrêmement rapidement.
Dommage,
alors qu'en général, enfin, je veux, ah oui, je, sans, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mais dans d'autres séries, type Danganronpa, tu la crames quand t'as envie de cramer ta série, ouais, tu vois. C'est bon, fin.
Ça d'arriver au bout d'un moment et. Bah oui. Et t'es pas là à dire, c'est toi Netflix qui me parle. Enfin, c'est,
oh là
tu
là.
Vois. C'est...
Et oui, et est-ce qu'on peut parler des références systématiques de Black Mirror envers Black Mirror? C'est insupportable.
Ouais,
j'en peux plus. Arrêtez, concentre-toi sur un scénario, arrête de concentrer mais sur ton héritage.
En fait, moi, ce qui m'a fait marrer, mais ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai vraiment eu cette impression de. Il en a rien à foutre, quoi. Enfin, c'est. Il y a un côté, ok, bah vous m'avez filé du pognon pour faire un truc. Je vais vous faire un truc interactif et je vais vous démontrer que c'est une idée à la con.
Alors ok, il démontre ça, mais je pense pas que Netflix va se retirer d'idée. De l'interaction puisqu'ils ont commencé à travailler dessus. Je pense pas que c'était coup, un point final j'espère qu'ils vont continuer à expérimenter
moi,
la formule.
Moi je trouve du coup je trouve le propos intéressant dans cette mesure là dans cette mesure hyper autodestructrice je trouve
c'est
que ça va
assez loin. Mais la question est-ce que c'est bien? Moi je te dis non.
Je pense qu'on est tous d'accord quand t'as fait spalmer sur la fin Netflix j'étais là mais c'est tellement bien.
Alors
c'est tellement bien.
C'est drôle parce que j'ai eu ce débat avec d'autres gens et c'est vrai que c'est à chaque fois divisé. C'est genre soit les gens sont consternés comme moi, soit les gens trouvent ça super drôle.
Moi j'ai trouvé les ficelles très grosses.
On est en train de niquer le conducteur de cette émission. Vous pouvez même pas savoir. On est en début 2018, ça va pas du tout. Donc 2019,
c'est Black Mirror. Cette expérience est importante parce qu'elle a la fusion entre le jeu vidéo qui nous est cher et justement le format Netflix. Oui, c'est important. Hein.
Mais pour moi, c'est assez marrant parce que tu vois, t'as un bon truc, c'est Late Shift qui reste pour moi la fiction audiovisuelle interactive et qui va vraiment avec l'axe d'embranchement. Non, mais c'est l'axe d'embranchement. C'est l'axe des trois, c'est le choix des trois, c'est t'as ce truc de Black Mirror qui est hyper cohérent dans la destruction de sa propre existence et je trouve que c'est cohérent.
Mais en tout cas, je vais me lancer dans l'écriture de mon livre qui va démontrer que les livres c'est nul. Mais et voilà. Je le ferai lire à Arwan, il trouvera ça.
Ils ont une attaque de l'éditeur des livres dont vous êtes le héros.
Choose and Co.
Les avaient approchés, c'est pas fait, puis ils ont quand même pris le.
Patrick, tu as 8 secondes pour nous résumer le prochain jeu. On va faire ça, on va faire que des trucs auxquels on a déjà joué. Non mais c'est pour rattraper le conducteur. Non mais t'as pas 8 secondes, on va te laisser plus.
Merci.
Donc New Super Mario U Deluxe qui est Button Switch.
C'est ça, qui arrive sur la Switch. Alors, on rappelle, c'est une série qui est, je crois, née en 2006 sur DS, qui a été adaptée sur Wii en 2009. Il est arrivé sur Wii U. C'était un jeu de lancement de la Wii U. Et
novembre 2012.
Et c'était un choc parce que c'est la première fois qu'on voyait l'univers Nintendo en HD. Je me rappelle de la baffe qu'on avait prise parce que, mine de rien, c'était la première fois qu'on avait de la HD. Oula, je vois Corentin qui.
Non, mais paye ton choc. Il n'y a rien qui ressemble plus à un New Super Mario Bros. Qu'un autre New Super Mario
Bros. Je me rappelle du passage à la
HD. C'était beau,
c'était joli. C'était beau. Donc alors aujourd'hui, donc on a l'arrivée de ce titre. Il fait partie de cette vague. Hein, on va pas se cacher. On sait que la Wii U a pas bien marché. Pas beaucoup de gens l'ont eu. Il faut reconnaître.
Ouais. Il a eu 5 millions de sellers quand même.
Oui, mais la console. Je te parle du format de la Wii U qui a quand même qui a pas cartonné.
Mais le jeu lui-même, il s'est vendu.
Bien sûr, quand tu avais une Wii U, il fallait avoir ce titre-là. Mais je parle de la Wii U en général, elle a floppé. Donc aujourd'hui, Nintendo est parti dans une grande entreprise de ressortir tel quel quasiment des jeux de la Wii U et de les reproposer sur Switch.
Mais c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il y a plein de bons jeux sur Wii U.
Plutôt légitime. Donc là, on a une version deluxe. Alors le terme de deluxe est peut-être un petit peu fort parce que pour moi, on n'est pas sur de la remasterisation. On est plus sur une réédition. C'est-à-dire que là, on a la version Wii U 2012. On a cette extension Luigi qui était plutôt élitiste, hein, mais qui était plutôt marrante, qui était sortie dans mon souvenir en DLC, puis un peu en physique, qui est très recherchée d'ailleurs.
L'année de Luigi, pendant
2013.
Une des années les plus catastrophiques économiquement de Nintendo. Merci Luigi.
De l'année de Luigi. Et en fait, donc, il y a une extension plus dure. On reprend les niveaux plus condensés, avec moins de temps. On joue avec Luigi, donc, qui est plus avec un gameplay plus flottant, plus qui dérape pas mal.
Presque du speedrun.
Et c'est vraiment plus difficile.
Ouais,
c'est
100 secondes par niveau.
Et donc, c'est tendu. Ouais. Hein, parce que tu commences ta partie avec déjà le compteur en mode stress. Donc, on a ça. On a quelques ajouts. On a donc Carotin qui était apparu, je crois, 3 dans Luigi, qui est donc intégré aujourd'hui. Donc,
est-ce qu'on peut saluer juste l'équipe de localisation pour ce nom, Carottin?
Carottin, c'est génial.
Carottin, c'est un lapin, c'est un voleur, ils l'ont appelé Carottin.
Mais moi, j'adore ce personnage.
C'est génial.
C'est pas le mec qui a donné les noms aux 150 premiers Pokémon.
Non,
c'est
lui. Bardakoff, non.
Mais il est Carottin, puis il a un charisme, ce perso.
Ça rappelle ça, ça rappelle ce génie de.
Non, mais de toute façon, l'équipe de localisation Nintendo, de manière générale, c'est toujours bien pensé. Mais Carottin, c'est du génie. Pardon, excuse-moi pour cette parole.
Donc, oui, on parle plus de réédition parce que c'est vrai que le côté deluxe, c'est un peu comme le Rayman Legends qui était ressorti en version Director's Cut, je sais plus. En fait, c'était la version Wii U repassée sur Switch. Et c'est plutôt pas mal. Alors, moi, j'y ai joué. Alors, j'avoue que en y jouant sur la télé, j'ai préféré jouer au pad pro. Je trouve que c'est plus précis comme le pad pro pour ces jeux qui sont quand même assez précis. Et alors, moi, j'ai joué en deux temps. C'est-à-dire que je l'ai lancé en solo. J'ai joué en portable, après j'ai mis sur la télé en solo, et bon, je commençais à grogner un petit peu. Ouais, bon, c'est un deluxe, mais bon, on a les mêmes choses, machin, bof, bof, bof. Mais j'étais quand même content de retrouver, parce que moi, j'adore ce mariage, j'en avais déjà parlé en 2012, hein, je vais pas redire ce que j'avais dit à l'époque, mais moi, j'adore ce mariage du gameplay rétro des premiers Mario, combiné avec une réale un peu réajustée. Donc, c'est du néo-rétro que j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce principe. Donc, j'ai commencé en solo, je commençais à grogner, voilà, bon, bah, c'est bien, mais voilà. Et puis, j'ai joué à deux, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu vidéo. Et là, je me suis rendu compte d'un truc qui se passe avec ces jeux-là. Donc, la personne a pris Carottin. Parce que Carottin, on rappelle, il peut pas mourir, en fait. Il est cheaté, il est fait exprès. Et c'est plutôt bien pensé par Nintendo. C'est vraiment le perso que tu files à ton pote qui sait pas jouer, qui se plante partout. Mais il va prendre plaisir parce qu'il fait partie de la partie. Enfin, il va participer à la partie. Et là, je me suis rendu compte de la. En fait, du côté. Humoristique de ces jeux, en fait, que t'as en quand tu joues à deux ou à trois ou quatre, on peut jouer à plusieurs, t'as un vrai truc que t'as pas en solo. C'est-à-dire que t'as des gags visuels, des persos qui se montent les uns sur les autres, et t'as cette physique qui est très particulière aussi, hein, ces jeux-là. Tu sais, les carapaces que tu prends, que tu jettes, qui vont traverser l'écran. Des trucs que en solo, c'est plutôt dramatique parce que hop, tu vas te la prendre, t'as perdu, c'est fini. En multi, ça prend une autre dimension. T'as des gags visuels quasiment entre les personnages. T'as des interactions. Et je trouve que ça prend vraiment... Il y a vraiment un côté fun et complètement bazar, mais rigolo à l'écran. Avec des gags, même des gags visuels, je trouve, qui m'ont rappelé des... Tu vois, t'as des séquences de Chaplin ou des choses comme ça. Au cinéma, où t'as cette grammaire de gags visuels que tu retrouves là, avec des choses que t'as pas forcément quand tu joues en solo. Et vraiment, question. Le multi est important sur ces trucs-là.
J'ai une question un peu technique. Mais à l'époque de la version Wii, moi, ça m'avait gêné ce bazar justement, mais pour un aspect, mais vraiment un seul aspect, c'était les frames de freeze du jeu quand quelqu'un meurt. C'est-à-dire ça bloquait le jeu pendant une microseconde. Est-ce qu'il y a encore ces freezes
Je crois que t'as encore des mini freezes, mais c'est pas un truc qui me bloque, tu vois.
Ça me frustrait parce que ça me faisait rater des sauts. Ça me.
Oui, je crois que t'as un petit à vérifier, mais je crois que t'as un petit truc.
D'accord.
Mais encore une fois, vraiment, c'est vraiment un jeu qui gagne beaucoup dans ce côté.
Ah oui, mais les New Super Mario Bros. Moi, je sais que j'avais fini le New Super Mario Bros. Wii avec ma chérie et c'était incroyable. On s'était marrés comme des baleines.
Et en général, tu rigoles pas à la fin. La différence, c'est quand tu joues en solo, tu rigoles pas parce que tu joues à Mario, tu connais Mario depuis 35 ans.
Normal, c'est sérieux
en
la
multi,
plateforme.
Je te dis vraiment, t'as ces gags visuels où vraiment tu te marres. Ouais. Carottin, tu le vois gambader. Il y a vraiment un côté humoristique qu'on ne souligne pas assez dans les jeux Mario, je trouve, et qui explose avec ces titres-là. Alors évidemment, moi j'aurais pas été contre, je sais pas moi, un épisode. Alors là, je crois que tu as Toadette qui est apparue et qui se transforme en Peachette.
Ah ben oui.
Alors voilà, ça c'est. Mais bon, c'est de la virgule en plus. Non, moi j'aurais pas été contre un épisode Peach en plus, comme on avait eu un Peach sur DS à l'époque.
Ou comme Luigi, d'autres types de challenges.
Ou une composante Mario Maker, pourquoi pas, ça aurait pu être intégré en plus.
Ils vont bien nous le revendre, Mario Maker.
Bien sûr, ça aurait pu être bien en plus. Mais encore une fois, bon, si vous l'avez sur Wii U, vous le gardez sur Wii U. Par contre, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un indispensable. Quoi. Quand tu as ces jeux-là, quand tu as une Switch, si tu n'as pas le jeu dans la version précédente, bon, vu qu'il n'y a pas encore de licence globale où tu l'auras acheté sur Wii U, tu peux le reprendre, moi, j'ai envie de dire, si t'as que la Switch, c'est un indispensable, quoi. Aussi bien en solo, parce que je sais plus combien de niveaux, c'est colossal.
150, je crois.
C'est du gameplay old school, mais qui je trouve, et en multi, c'est du vrai bonheur. Et vraiment des barres de rire.
Par contre, si vous voulez du challenge et du level design, je vous redirigerai plutôt vers le Donkey Kong Tropical Freeze.
Ouais, qui est plus perfectionné.
Qui est un peu plus intéressant.
Tu te lances déjà sur le Luigi, je trouve que tu serres les dents sur le Luigi.
Non, bien sûr, mais c'est costaud. Je le sors toujours, mais Mark Brand a fait une très belle analyse de level design de ce New Super Mario Bros. U. Et c'est vrai qu'il dit qu'il est un peu fainéant. sur le level design. Oui, même s'il reste très solide, et le gameplay de Mario reste ultra solide. Mais c'est vrai que tu joues à ce jeu-là, t'as l'impression d'avoir joué à tous les New Super Mario Bros. Également.
Ouais, bien
quoi.
Sûr, mais la formule, elle est toujours la même. Mais encore une fois, la physique. Moi, c'est la physique qui m'a resurpris en y rejouant, là, de redécouvrir tous ces jeux avec sauter sur un perso, prendre la carapace, la balance. Il se passe beaucoup de choses à l'écran. Et t'as vraiment un ressenti vraiment physique, ce qui est quand même paradoxal. Enfin, on parle d'un jeu Mario, et je trouve que t'as un vrai feeling à l'écran. Et tu te marres, en fait. Et ça, c'est bien de se marrer devant un jeu vidéo.
Merci, New Super Mario Bros. New Super Mario U Deluxe.
New Super Mario Bros. U Deluxe.
Voilà, ouais. C'est ça. Voilà, on va y arriver.
Courage.
la console suivante, quoi. Deluxe, mais.
Prime Alpha, tu en
Button Switch, Button.
Quelle horreur. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Il y a des jeux qui donnent cette impression de monolithe, d'être designé au micron près. Et c'est le cas de Orbis, le dernier né des éditions Space Cowboys. Vous y incarnez un dieu à la Populous. Chaque joueur va construire un monde en récupérant des tuiles une par une, parmi les 9 présentes au centre de la table. À chaque fois qu'on prendra une tuile, on posera des personnages de la même couleur, des petits adorateurs, sur les tuiles adjacentes. Les joueurs suivants pourront donc les récupérer quand ils feront l'acquisition de ces tuiles. Ces tuiles sont des régions qui vous permettront d'obtenir des points de création, ou bien des adorateurs supplémentaires, qui sont un peu la monnaie du jeu, ou encore des pouvoirs qui vous permettront de progresser plus rapidement. Et puis on peut pas construire les mondes n'importe comment non plus, il y a des règles. Chaque monde doit être composé d'une base de 5 régions. Pour poser une tuile, il faudra que l'une des deux de l'étage inférieur soit de la même couleur. Sinon, Garomalus. Puis on composera l'étage supérieur à la manière d'une pyramide, sur laquelle siégera un dieu. Une tuile unique que vous pourrez choisir en fonction de votre stratégie pour vous rapporter plus de points. Ce jeu est parfaitement dans l'air du temps. Il est intéressant, les parties sont intenses, mais pas trop longues. Il est profond et tactique, mais pas vraiment compliqué. Il surprendra les plus experts d'entre vous par son équilibre et sa finition. La mécanique vous rappellera un petit peu Splendor. Pas étonnant, c'est le même éditeur et la même taille de boîte. Et puis le jeu est vraiment beau. Excellemment illustré. Je rappelle son nom, Orbis, O-R-B-I-S. L'auteur, Tim Armstrong. L'illustrateur, Davide Tosello. De 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 10 ans. Et je pense avoir été extrêmement clair, c'est une valeur sûre. Et je vous retrouve bientôt pour parler de jeux pas dématérialisés. Ou même dans 10, 20, 30 ans, on n'aura pas besoin d'adaptateurs, de trucs chelous, de serveurs bizarres pour les faire fonctionner. Bye bye.
Bye bye Jérémy, à la semaine prochaine. Et puis on va continuer avec le programme, avec une suite de jeux auxquels on n'a pas joué. Hein. Oui. Voilà, c'est ça l'idée.
J'ai découvert
un jeu de début des années 2010 qui a eu une ressortie un peu définitive en 2015 avec Kingdom Classics en 2015, et puis qui est revenu en ce mois de décembre 2018 avec une nouvelle version, donc Kingdom 2 Crowns. Alors, 3 touches. 3 touches, ouais. et puis un jeu où on peut aller à droite, à gauche, et puis on peut donner des
on
pièces.
Peut aller à gauche et à droite aussi.
C'est ça.
Note.
Corentin.
Ouais, Kingdom 2 Crowns. Pareil, je ne connaissais pas du tout. Ouais. J'ai découvert ça. J'ai même découvert en fait le contexte du jeu hier en faisant mes recherches un petit peu sur quand même d'où vient ce jeu. Apparemment, certaines personnes semblaient le connaître. Donc c'est un Allemand, hein, Thomas von Denberg, qui a fait ce jeu. Donc dans une version classique en effet, puis version un petit peu avec des. Il y a eu des extensions qui sont sorties et qui ont un petit peu enrichi un système de jeu qui avait été trouvé.
PC Only.
Je pense, ouais. Je t'avoue que j'ai pas poussé les recherches que là.
Très, très, très Button Switch compatible. Hein.
Oui, ouais,
c'est pour ça que je pose la question.
De toute façon, le Two Crowns, là, c'est vraiment une version définitive avec donc ce choix de royaume qu'on peut choisir, plus aussi le mode coop qui a été rajouté là. Mode coop dont, pareil, j'ai appris l'existence, mais on va en reparler très tard. Mais on va expliquer le concept quand même parce que c'est un peu particulier. C'est à la fois la force et la faiblesse de ce Kingdom Two Crowns. Donc, on incarne un roi déchu un petit peu, hein. On a sa petite couronne, mais c'est un peu tout ce qui nous reste sur la tête, et son cheval.
Et son switch.
Très bien. Ah non, moi j'ai joué sur Switch, absolument, au Kingdom to Crown. Non, mais le premier, je sais pas s'il était que sur PC ou ailleurs.
Ah ok, je suis
Oui, absolument, il est sur Switch, oui, il est partout, il est sur Switch, Xbox One, okay. PC, Mac. Donc on est un roi déchu, ou une reine d'ailleurs déchu, parce qu'on peut choisir de jouer soit un roi, soit une reine, soit un roi un peu à l'occidental, Europe médiévale, tout ça, soit une reine plutôt, on va dire, monarchie asiatique, soit la Chine, soit le Japon, je sais pas très vraiment précisé, mais en tout cas, les pièces sont plutôt ovales, on dirait des lios japonais. Et on est sur son cheval et puis on avance à droite en l'occurrence et on suit un fantôme qui dit par ici, viens refonder ton royaume. Alors on y va parce qu'on est très docile, on est très gentil parce que c'est un jeu vidéo. Donc ensuite on avance, on récupère des pièces par terre qui sont inexplicablement là, mais en même temps c'est bien qu'elles soient là sinon on pourrait pas commencer. Et on arrive à un camp avec trois pélos, deux tondus qui s'ennuient, hein, vraisemblablement.
Oui. Sans nous, ils font rien.
Ils sont un petit peu à notre crochet, hein, oui. ces types. Et on établit un camp. Donc, en fait, les pièces qu'on a ramassées tombent dans une bourse qui est affichée en haut à droite de l'écran. Et en fait, quand on arrive sur le feu, qui est éteint, il y a un nombre de pièces vides en fait qui apparaît et on nous dit bon bah appuie sur le bouton A ou alors toi dans ton cas, Erwan,
la flèche vers le bas.
En fait, les pièces qu'on a dans notre bourse vont se mettre dans ces petites, vont se ficher hein, dans les emplacements pour les pièces. Et paf, le feu s'allume et bravo, tu as ton camp, tu as le début de ton royaume. C'est la graine qui va pousser et maintenant, eh ben, il va falloir se développer, prendre du terrain, développer des différents corps de métier, recruter des gens aussi. Et on te dit, bon, bah voilà, maintenant t'as un camp, il te faut des gens. Alors, du coup, t'as les deux pélos qui sont là, en fait, ils s'en foutent un peu de toi. Et on te dit, bah donne-leur une pièce pour voir. En fait, tu leur donnes une pièce et paf, ils sont bien habillés d'un coup. Et en fait, c'est tes sujets. Donc, en fait, pour transformer un mec qui est là, tu leur donnes une pièce et avec la même touche que pour faire le feu. Et paf, ça fait un sujet. On te dit, bah un peu plus loin, il y a un village, va récupérer d'autres mecs. Alors, tu récupères d'autres mecs. Puis après, on dit, tiens, là, tu peux faire un mur, tu peux faire le mur de droite de ton camp. Et alors tu y vas, et là pareil, il y a les petits trous qui apparaissent au-dessus, les petits emplacements pour les pièces qui apparaissent au-dessus du mur. Et pareil, on appuie sur les mêmes boutons et on met ces pièces. Et on comprend en fait assez vite que dans ce jeu, dans Kingdom to Crowns, eh bien, c'est la seule interaction qu'on va avoir quasiment, c'est donner de l'argent ou récupérer de l'argent. C'est grosso modo les seules actions qu'on aura à faire et le déplacement évidemment. Tout ça sur un plan 2D. Donc, votre royaume, en fait, se limitera à une limite gauche, une limite droite. Et graphiquement, c'est représenté par la muraille, en fait, de votre camp, qui va devenir de plus en plus, évidemment, élaborée au fur et à mesure que vous allez upgrader votre camp. Du feu, on va passer à une tente. De la tente, on va passer à un temple, voilà, etc., etc. Et le jeu est très peu bavard. Alors, j'aime bien
il cesse d'être bavard après le recrutement parce qu'à côté de son camp et ben il y a un petit feu de camp avec des gens et on t'apprend à recruter des nouvelles personnes et après
en fait, le fantôme.
Après, débrouille-toi, le fantôme se casse et t'es tout seul.
Le fantôme te parle, sinon, c'est écrit genre recrute-lui, construis ce mur.
Et après, il s'en va.
Et après, débrouille-toi. Alors, à titre personnel, j'aime bien quand les jeux essayent de le faire sans le dire. Et de manière avec du design, avec des petites astuces pour forcer le joueur ou le faire pour qu'il le fasse de lui-même.
Qu'il ait la sensation de le faire par lui-même, en tout cas.
C'est ça. Et le jeu essaye vraiment de jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'éléments à l'écran. Il y aura ta bourse, il y aura en effet toujours ces petits trous hein, qui vont réapparaître tout le temps. On va passer devant une ruine d'un bateau qui était sur le fleuve. On est tout le long d'un fleuve, systématiquement. On va passer devant un sanctuaire. Et là, alors, ça va plus
être. C'est une mer, mais vu en 2D.
Ah, c'est une mer, je pensais que c'était une rivière, Mathieu.
Oui, c'est une mer parce que quand tu construis le bateau.
Non, Serge, oui, t'as raison, mais maintenant que tu me le dis, ça a du sens. Oui, absolument. Oui, donc c'est une mer, absolument. En tout cas, on est au bord de l'eau, ça c'est clair, c'est un petit peu le fil conducteur, c'est qu'on est toujours au bord de l'eau. D'ailleurs, ça peut avoir son importance quand on perd son argent, il peut tomber dans l'eau, c'est assez terrible. Et alors, pourquoi on construit son royaume et quel est l'enjeu de construire son royaume? Est-ce qu'on est pressé par quelque chose? Oui, il y a un cycle jour-nuit.
Et un cycle de saison.
Ah ouais, bah tu vois, je suis même pas arrivé jusqu'au cycle de saison. mais le cycle jour-nuit, en fait, et comme dans beaucoup de jeux de survie ou tout ça, c'est que le jour tout va bien, tu construis, tu te développes, tu prépares la nuit, parce que la nuit, en fait, tu vas te faire attaquer par des monstres qui arrivent.
Je pense que si un jour il y a un jeu de survie qui inverse le truc, ça va être la révolution.
Le jour,
t'es attaqué par les gens et la nuit, les zombies sont tes copains.
Non, alors tu joues un zombie et c'est vrai. Donc voilà, il y a des petits monstres comme ça qui arrivent. Et qui frappe à la porte, qui s'il trouve quelqu'un qui t'appartient dans le en dehors du camp, ils vont l'attaquer. S'ils te chopent, ils t'attaquent. Tes points de vie sont également ta bourse en fait. Enfin, ta bourse c'est tes points de vie. C'est-à-dire que si t'attaques, tu perds une pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce. Plus ta couronne, si jamais t'as plus de pièces, et si tu perds ta couronne, c'est game over. Donc il faut faire très attention en fait à être bien dans l'enceinte de ton royaume au fur et à mesure que, enfin au moment où la nuit arrive ou en tout cas quand les monstres arrivent. Et pourtant s'aventurer dans les forêts alentours, ça peut avoir une importance déjà pour recruter parce qu'en vrai pour avoir des nouvelles têtes dans ton royaume, eh ben il faut s'aventurer dans les forêts, trouver les villages abandonnés ou ruinés pour donner des pièces et donc les recruter dans ton village. Et après, une fois dans le village, on peut en fait donner de l'argent à différents corps de métier pour créer des postes et ils vont choisir par eux-mêmes leur poste. Et ça, c'est insupportable. Je tenais juste à le préciser. Parce qu'en fait, ils vont prendre le premier truc qui retombe sous la main. Ouais. Sauf que bah, si t'avais mis un marteau avant et puis personne l'a pris parce que t'avais plus de monde, moi, des fois, j'ai fait recruter un mec qui était du côté du marteau alors que l'arc était de l'autre côté du village et puis il a pris le marteau alors que je voulais un archer. Et bref, c'est insupportable. C'est à nous aussi d'aller s'aventurer, donc de prendre des risques. Sauf que du coup, bah, ça demande de beaucoup de déplacements. Sauf que les déplacements dans ce jeu-là, c'est juste des allers-retours entre la gauche et la droite. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment relou. Mais vraiment, le personnage est très lent. Très, 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 très lent.
Oui, parce qu'en fait, j'ai une reine, hein, mais elle est à cheval, mais le cheval est fatigué. C'est-à-dire que quand.
C'est le cheval asthmatique. Ouais. Il est vraiment là. Au bout de 10 mètres de course, il est crevé. C'est vraiment frustrant.
C'est compliqué, Kingdom to Crowns. C'est compliqué d'en parler parce que, en fait, contrairement à des jeux à scénario où on va spoiler le scénario si on ne fait pas gaffe, là, il n'y a pas de scénario vraiment à spoiler. Mais il y a des gameplays. Pourquoi il y a des gameplays à spoiler? Parce que, en fait, Kingdom to Crowns est une. Alors, le gameplay, on vous a expliqué, hein, c'est gauche-droite, donner. Prendre les pièces d'or, hein. Donc on n'est quand même pas sur des très complexes, mais en même temps on est dans la découverte de ce que ça va faire de mettre des pièces à tel endroit, de ce que ça va faire de construire un bateau, de ce que ça va faire de construire des murailles, de ce que ça va faire de y a un truc que je peux construire quand il y a une rivière qui coule, qu'est-ce que c'est et tout ça. Ah, c'est une ferme. Rien qu'en disant ça, quelque part, j'ai spoilé un truc. Parce que finalement, le Kingdom to Crowns, c'est la découverte de ce que tu peux faire. Alors, la difficulté du truc, c'est qu'on est un peu en mode rogue. Donc, c'est évidemment, on va être hyper tenté. On a découvert suffisamment de trucs, on s'est rendu compte qu'on avait plein de bêtises. On va recommencer une partie, on va reprendre tout à zéro et on va bien faire les choses. Et en fait, c'est ça qui est un peu déroutant. Un peu énervant aussi, un peu crispant en fait, c'est que il y a une complexité en termes de gestion, en termes de si on reprend les termes du jeu de stratégie entre guillemets, de build order, de gestion de est-ce qu'on va étendre sa ville pour incorporer plus d'éléments, est-ce qu'on va limiter la taille de sa ville pour la défendre plus efficacement contre les monstres, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi est-ce que quand je finis par recruter plein d'archers, pourquoi ils se mettent en groupe ils ont l'air d'être copains entre eux et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va finir par découvrir en faisant des essais, c'est-à-dire qu'en
s'investir, quoi.
En mettant des pièces à des endroits où tu sais pas trop, et puis tu te rends compte que ça déclenche un truc. Alors en fait, je pense qu'il y a et je l'ai vu dans des streams ou dans des vidéos des let's play. Il y a des gens, ils ont joué à Kingdom avant, donc en fait ils ont moins paumé. Ouais. En fait,
ils ont une partie
des codes. Ils sont en mode découverte aussi parce que c'est un nouveau jeu, mais ils ont une.
C'est un peu dommage, un jeu qui se coupe d'entrée d'une.
Merci. Voilà. Oui, je suis d'accord.
C'est un peu
moi,
ça.
C'est pas le but d'un jeu vidéo, quoi. Hein,
un des principes des jeux vidéo qui, pour moi, doit être respecté, c'est que ton jeu, il doit pouvoir vivre par lui-même. Bah, voilà, tu ne dois pas avoir à regarder des streams, tu ne dois pas aller aller sur des wikis. Et le pire dans tout ça, c'est que le jeu, donc tu le dis, se base beaucoup sur la découverte. Tu mets des pièces, tu ne sais pas ce que ça va donner. Il y a des moments, ça arrive, il y a des icônes, je ne sais toujours pas à quoi ça correspond. Au bout de 6 heures de jeu, c'est un problème. On me dit, tu ne peux pas.
C'est des joyaux.
Non, les joyaux, je sais. Ah ouais. Mais des fois, j'ai des constructions, les petites fiches pour mettre les pièces sont barrées. Et il y a une pierre fissurée. Alors j'ai besoin de pierre, donc je vais construire une pierre. Non, ça me fait une tour. Alors, je suis en mode, je sais toujours pas ce que tu me demandes, je sais pas comment avancer. Ouais. Et il y a un problème, mais fondamental, structurel dans ce jeu. C'est que, donc tu l'as dit, le jeu se base sur la découverte, sur. tenter sur l'empirisme finalement. Ouais. Sauf que rien dans le game design n'encourage à l'empirisme. Pourquoi ? Ton personnage se déplace ultra lentement. Le nerf de la guerre, c'est l'or. Tu en gardes de l'or.
Ça s'améliore pas, ça. Tu peux pas le.
Tu en gardes de l'or. Tu en gardes de l'or. Pourquoi ? Parce que quand t'as plus d'or.
Ah, mais ton perso, tu peux pas aller plus vite. Tu l'optimises, non ?
Oui, alors moi j'ai chopé. Au début t'as un cheval. À un moment donné, j'ai chopé un cerf parce que j'avais des joyaux que j'ai mis dans un que j'ai mis dans un sanctuaire. J'ai chopé un cerf et le cerf semblait avoir plus d'endurance. Non, en fait.
Ah, d'accord.
Et des fois, il a une endurance illimitée. Je ne sais toujours pas quel est le facteur qui détermine.
Il y a beaucoup de mystères.
Et alors, donc ton personnage va très lentement. Tu ne peux pas résoudre les crises quand il y en a, parce que quand tu es à l'autre bout du royaume, en fait, les jours sont ultra courts. Le temps que tu ailles à l'autre bout, en fait, c'est trop tard. La crise est passée, tu es mort. Tu ne sais pas si tu as de l'argent ou pas, parce que parfois tes chasseurs récupèrent de l'argent ou tes ouvriers récupèrent de l'argent. Ils le gardent tant que tu les croises pas, ils te le donnent pas. Donc en fait, c'est de l'argent que tu as, mais que tu n'as pas, que tu peux pas utiliser. Si tu es à zéro pièce d'or, mais tu es mort. Il n'y a aucun moyen ou très peu pour récupérer de l'argent, à part les fermiers, mais qui se débloquent très tard finalement. Dans le développement d'une ville, il faut développer plusieurs fois sa ville, puis trouver un truc d'agriculture, puis faire un poste, attendre que le mec finisse de faire de l'agriculture pour obtenir 2,5 pièces. C'est ultra long. Tu ne sais pas pourquoi tes chasseurs des fois rentrent bredouille, mais sincèrement, tu ne sais pas. Au bout d'un moment, tu fais d'accord, c'est parce que mon royaume n'est pas assez grand, donc il n'y a pas assez à chasser.
Concrètement, excuse-moi, tu as 6 heures de jeu, donc qu'est-ce qui t'a fait tenir ? C'était juste parce que tu allais en parler aujourd'hui ou il y a eu un truc qui t'a fait tenir ?
Sincèrement, le jeu me tombait des mains, j'ai insisté pour essayer de comprendre, quoi. Mais là, pourquoi ma partie là n'avance pas ? Des fois, tu passes 4 jours, tu ne peux rien faire, tu n'as plus d'argent, mais vraiment, je suis là en train d'aller demander à tout le monde, je suis en train de commander de l'or à mes serfs et tout. Filez-moi de la thune, quoi, sérieusement, je veux pas. Si t'es à 0 pièce d'or, t'es bloqué, il n'y a aucun moyen de te débloquer de cette situation-là.
Alors, c'est pour ça qu'il faut investir dans son château et filer des sous au monsieur qui sort de son château parce qu'il te file des intérêts en fait après.
Ce n'est jamais expliqué. Oui. Toi, t'es allé sur des streams, il le savait sûrement.
Le fait est que j'ai découvert le jeu sur un stream. Donc en fait, j'avais une sorte de truc. Et après, j'ai découvert énormément de choses par moi-même. Et après, j'étais bloqué. Et il y a un truc que j'ai été obligé d'aller voir sur un. Alors c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que je ne sais pas. Alors peut-être que des auditeurs pourront répondre dans les forums, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont cité, notamment dans les meilleurs jeux 2018. Il y a une ou deux personnes, je crois. Mais je ne sais pas s'il est possible de faire tout le jeu en mode découverte absolue. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez retorses. Après, pour moi, il y a quelque chose qui est hypnotique dans Kingdom Two Crowns. C'est que d'une part, il est beau. Je trouve que les animations, le pixel art est vraiment hyper travaillé. Les décors qui sont derrière, les musiques sont jolies. Et les découvertes, on découvre un truc, on débloque un truc, c'est super. On a vraiment l'impression d'être en mode.
Il n'y a jamais de wow en vrai.
Quand même.
Honnêtement.
Le cerf, il est cool, machin.
Enfin, ouais, d'accord. Je ne sais toujours pas comment il marche. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais toujours. Il y a des moments, il a les petites fumées au pied, c'est-à-dire qu'il a l'endurance infinie. Je ne sais toujours pas à quoi ça correspond. Le cheval aussi, des fois, il l'a. Je ne sais pas pourquoi. Au secours, Erwan !
Il y a beaucoup de solitude dans ce jeu.
Mais
jeu de solitude.
Et des fois, ce n'est pas instantané. Tu fais des trucs. Genre, en fait, pour élargir ton royaume, en fait, tu dois construire l'enceinte, tu dois agrandir l'enceinte et tu dois aussi couper la forêt. En fait. Tu dois dominer la nature autour de toi pour agrandir ton royaume. Il y a des moments, la forêt s'en va pas et tu ne sais pas pourquoi elle ne s'en va pas. Il y a des moments, on te dit cet arbre-là, tu ne peux pas le couper. Par contre, son voisin, tu peux. Pourquoi ? Pourquoi ? Dis-moi pourquoi ? Il y a plein de choses où t'es là, t'es perplexe. Tu fais, j'aimerais comprendre. Il y a des trucs que je pense avoir à peu près compris. Mais il n'y a jamais rien qui est vraiment de la découverte. Je suis toujours frustré.
Et je vais dire jeu joueur n'est pas très clair.
Ouais. Et puis, ce jeu-là est sûrement très profond et tout ça. Il manque le truc que Civilization a. Tu sais, c'est il y a un petit wiki, quoi. Ouais. Mettez un wiki, ça ne vous coûte rien. Faites en sorte que votre jeu soit self-explanatory, quoi. Enfin, qu'il s'explique tout seul comme un grand. Moi, j'y ai joué, j'étais pendant les vacances d'hiver, justement. J'avais pas un ordi sous la main pour jouer.
T'étais malade en plus.
Ouais, en plus j'étais malade.
La fièvre, ça aide pas.
J'étais soit dans les transports, soit en congé. J'étais pas chez moi. Mais j'avais pas que ça à foutre d'aller sur un week-end sur mon téléphone, à me péter les yeux et machin. Je voulais que le jeu me l'explique tout seul. Et ça, le jeu n'arrive pas à très bien le faire. Et comme tout. Donc, du coup, il y a vraiment cette contradiction entre la découverte, qui qui est retorse, et tout le reste du gameplay, qui est la lenteur du personnage, le truc en, le, comment ça s'appelle, le gameplay en 2D qui fait que d'aller d'un côté à l'autre, ça prend trois plombes, et comment ça s'appelle, et les cycles jour-nuit qui sont beaucoup trop courts. C'est, tu n'as le temps de rien faire en une journée. C'est, j'ai le sentiment de faire, j'ai le droit à deux actions par jour. Traverser le royaume, ça me prend un jour. Si tu prends un jour pour traverser le royaume. Alors, tu vois, c'est frustrant quand même, un jeu pareil. Alors, je leur donnerais peut-être sa chance en fouillant les wikias, mais c'est quand même un aveu d'échec d'en arriver là, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai une vraie sympathie. En fait, j'y reviens, mais pas pour des longues sessions, en fait. À un moment, je suis là, ouais, j'ai pas trop quoi faire, bon, j'arrête. Et en fait, je peux pas m'empêcher d'y revenir. En fait, je peux pas m'empêcher. Il y a un truc de fascination qui, de la découverte. Et en fait, j'ai complètement arrêté de regarder des streams ou des machins. C'est-à-dire que là, je suis dans l'inconnu, je suis sur la deuxième île et je galère bien parce que, tu vois, je sens que j'ai trop agrandi ma ville, j'arrive pas à la défendre efficacement.
Attends,
et tout
comment
ça.
T'as pu avoir les saisons? Je suis arrivé à la troisième île. Comment t'as pu avoir les saisons avant moi?
Non, mais c'est.
J'arrive sur un champ de bataille là, moi. Je suis sur un espèce de champ de bataille.
Non, mais j'ai une vraie fascination. Mais voilà.
Non, mais je suis d'accord. Et honnêtement, je pense que c'est aussi ma façon de jouer, c'est mon avis de joueur. Mais j'avais un peu le même problème avec Subnautica, qui était. Trop,
alors, ça m'a rappelé les débuts, mais Subnautica est un peu plus.
Alors, il est plus fini, ouais, on est d'accord. Ouais. Hein, mais Subnautica aussi, j'avais eu ce problème-là où j'avais le sentiment de ne pas savoir que faire. Et si tu n'avais pas suivi le Kickstarter depuis le début de Subnautica et que tu n'as pas suivi des streams et tout le développement, bah, tu étais perdu. C'est un peu des jeux VIP Club, VIP Room, voilà, tu rentres pas si tu n'as pas les connaissances de base. Ouais. Et moi, je trouve ça dommage pour une œuvre qui devrait être jouable sur une île déserte. Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est, en fait, ce qui est très étonnant pour moi, le plus étonnant avec Kingdom Two Crowns, c'est que je suis totalement de ton avis d'habitude. C'est un jeu comme ça, normalement, je le jette par la fenêtre.
Mais là, il t'hypnotise, quoi. Il t'hypnotise.
Mais vraiment, je déteste quand on me prend pas, t'es pas le bienvenu, quoi.
Et surtout pour un jeu de gestion, en plus.
Ah ouais, surtout pour un jeu de gestion, enfin, c'est tout ce que je déteste.
Genre,
je sais pas, celui-là, je.
Après, moi, j'encourage les gens à regarder peut-être des streams, des trucs comme ça, pour voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est quand même. Je reconnais la volonté du jeu. Il y a une vraie bonne volonté d'essayer de faire ce jeu de gestion muet un peu, mais au final, enfin moi j'ai pas passé un bon moment quoi. Après bon, je vois les avis là sur Steam sont assez partagés, ouais. Donc je pense qu'il y a quand même une base fervente qui défend le jeu. Et je pense que si le mec a autant insisté sur le même jeu depuis tant d'années, c'est qu'il y a un fond quand même, ouais, qui est justifié. Costaud. Donc je vous encourage, si vous aimez les jeux de gestion un peu simples, d'aller jeter un œil sur les streams, sur voilà, pour voir si c'est votre cam. C'est peut-être votre cam. Moi, il m'a frustré. Ce sera peut-être pas votre cas. C'est pas très cher non plus. Ça coûte 20 euros.
Allez, on va finir cette émission avec. Ah, c'est étonnant. Hein, c'est étonnant. Tu m'aurais cité quel jeu du début des années 2000 est-ce que vous voudriez éventuellement avoir en HD sur votre télé? Je pense que celui-là, il serait arrivé à la 2853e place.
Ah, pourtant, il a marqué les esprits.
Ah, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Surtout le 3 avec Jean Reno.
Non, il ne faut pas minimiser la sortie du premier. C'était un événement. C'était un des premiers jeux pour moi qui montrait ce que la PS2 pouvait faire. Enfin, c'était. Voilà, enfin, je te laisse finir ton introduction, mais il ne faut pas minimiser le premier.
Je ne minimise pas.
Ah, ouais, non.
Je ne minimise pas. Je dis juste que si on me demandait. Il arriverait loin.
Non, t'as pas demandé, donc.
On m'a pas demandé. C'est tort.
Les exécutifs de Capcom, bizarrement, n'ont pas le numéro d'Erwan.
Ils en font à leur tête.
C'est ça.
Ah, on voulait demander à Erwan, on n'a pas pu.
Et donc, numéro, quoi. Chers auditeurs, eh ben, on va parler d'Onimusha Warlords. Samunosuke. I will save Princess Yuki. This way, sir. Kaede. I'll go north. You follow them through the other way.
Samanosuke, defeat and shield her soul to your right hand.
Samanosuke.
Bah oui. Ah, c'est lui.
Samanosuke. Samanosuke, samouraï solitaire qui va libérer la princesse. Ah ouais, on est en 2001.
Ah bah oui.
Waouh.
Ouais, en 2001, d'un jeu qui a
va libérer la princesse Yuki.
C'est...
Ah ouais, non, on se posait pas.
Oh
beaucoup...
mais on va pas se moquer d'Onimusha quand même. Hein. Et c'est quoi cette blague là? Attention. Non mais c'est un jeu qui venait de loin.
Je crois que ça fait partie des licences que je connais le moins. Sincèrement.
Bah, en fait, il avait eu toute une histoire ce jeu. Ce que j'avais vu, il avait été prévu pour être dans la série Resident Evil à la base.
Ça se sent tellement.
Avec un pendant donc japonisant sur Nintendo 64. Le projet avait été transformé en jeu PS1 et finalement il est arrivé sur PlayStation 2 quelques temps après l'arrivée de la console. Donc on regardait avec un air.
Mais t'as l'air d'avoir une infinité plus de connaissances sur cette série.
Non, mais
je m'abreuve de tes paroles.
Vas-y.
Non, c'est juste pour finir. Hein, non, mais je disais juste qu'on était quand même sur le bon vieux trope demoiselle en détresse qui a commencé. Enfin voilà, dont le jeu vidéo s'est peu à peu libéré, hein, on va dire.
Bon, non, regarde Céleste, c'est demoiselle en détresse qui se sauve elle-même. Je trouve ça cool.
Oui, voilà, c'est ça.
Bah,
voilà,
ça sauve 2018.
Ça a un peu évolué. Donc voilà, Onimusha rapidement. Onimusha, c'est certes une licence, il y en a eu 4 avec, si on compte, le Dawn of Dreams qui est sorti en 2006, mais bon, grosso modo, il y en a eu 3.
Il y a eu 3
Onimusha qui sont sortis de manière très rapprochée en 2001, 2002, 2004.
Hein, l'époque PS2, c'est quoi l'époque?
On n'est pas sur du Last of Us, sur du Red Dead Redemption où on met 8 ans. Hein,
Là, j'attends que Patrick comble mes lacunes. Là, je suis tout ouïe.
Et donc, on est effectivement sur une sorte de ressucé des principes de Resident Evil, mais en version beat'em all, avec des démons des sabres. C'est ça.
T'as assez bien résumé le truc. Non, mais il est intéressant ce jeu parce que justement il y avait cette nouvelle ambiance par rapport à Resident qu'on connaissait déjà bien à l'époque, mais en même temps il est dans cette première génération de jeux Capcom en mode survival horror avec cette formule décor pré-calculé et puis perso en 3D animé. Alors moi je suis un peu dans ma semaine réédition. Hein, je vous ai parlé de Super Mario tout à l'heure qui était réédité. Là pareil, on est sur le même format, en fait, on est sur une réédition du jeu de 2001, avec quand même quelques retravails sur... Alors j'avais noté, la musique a été refaite parce qu'il y a eu des problèmes de droit et surtout de légitimité du musicien de l'époque. La manette, on a une prise en main avec l'analogique parce que le côté tank de l'époque, c'était un peu dur. Compatibilité 16/9 quand même, donc étirage un petit peu de l'image si on veut, mais tout ça peut être adapté. Et puis voilà, il y a quelques ajustements qui rendent l'expérience un petit peu plus confortable aujourd'hui, mais on est quand même dans le jus de 2001. Hein, c'est-à-dire qu'on a, ce clash entre les décors précalculés et le perso animé en 3D.
J'aime bien ce style.
Exactement, c'est que moi, ce qui m'intéresse avec ce titre-là, c'est qu'il est, je pense qu'il est important dans l'histoire de Capcom et notamment de son historique de survival horror, parce que il montre quelque part l'arrivée de l'action. C'est-à-dire qu'on est, plus sur le tempo du survival horror traditionnel, la Resident Evil qui penche plus vers l'aventure avec une gestion des armes, etc. Des balles au compte-gouttes, etc. On est sur un côté plus beat'em all, plus nerveux, où on fight au contact, hein, avec son sabre, etc. On a une gestion des orbes d'énergie. Il y a des nouvelles composantes qui arrivent, qui sont intéressantes, je trouve, et qui annoncent un petit peu les différentes évolutions chez Capcom de séries.
Sachant qu'il est à peu près... c'est à peu près à la même époque que Devil May Cry.
Il fait partie de ces différentes familles qui naissent de Resident Evil, en fait, qui sont des comme pas des spin-offs officiels, mais des créations qui viennent de la matrice Resident Evil. Donc c'est ça aussi qui en fait.
Mais alors du coup, Onimusha est un jeu d'horreur. Enfin, je connais vraiment pas.
Il y a des démons.
Il y a des petites. Ouais, un jeu d'horreur, j'irai pas jusque là quand on voit ce qu'on. Et justement, tu fais très bien de lancer la question. Moi, c'est marrant, c'est que ce week-end, je jouais à la fois donc à celui-ci et puis à la fameuse démo 30 minutes de Resident Evil 2. Mmh. Et je trouvais que c'était intéressant de voir c'est quoi la mémoire du jeu vidéo quelque part. C'est qu'on avait chez Capcom, donc le même éditeur, on a deux façons complètement radicalement différentes de revisiter notre mémoire de joueur. D'un côté, Resident Evil 2 qui est une relecture, une réinterprétation totale. Pardon, je crois que tu m'as refilé ton truc. une réinterprétation totale donc du jeu. On reconnaît parfois certains endroits, mais complètement revisité. Et là, on se retrouve dans notre jus de l'époque. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes pixels, les mêmes décors, etc. Donc finalement, je trouve que c'est intéressant, c'est que ce sont deux façons assez différentes de se replonger... dans des expériences.
C'est Onimusha dans la gorge.
Prenez peut-être le.
Donc je reprends la. Ouais. Alors oui, c'est. On voit.
Ça va mieux. Ça va mieux.
C'est sur la manière d'appréhender le jeu en lui-même. Voilà. Après, le problème des caméras fixes, hein, parce que c'est.
Des défauts. Bah, les,
on est dans un beat'em all avec des ennemis qui te viennent de partout.
Pour gérer les distances, c'est pas ouf, j'imagine.
Oh. Plus que dans Resident, hein. C'est-à-dire qu'ils y arrivent souvent de tous les côtés. Et du coup, avec ces fameux plans de caméra, où des fois, t'as du hors-champ. Quoi, où des fois t'as des angles morts et tu vois pas. Donc ça peut être un peu stressant. Et puis on est sur quelque chose d'assez rustre, d'assez routre, d'assez roots dans les énigmes, dans la façon de progresser.
Clé bleue dans serrure bleue.
Bah ouais, en fait, il y a des énigmes affreuses, le truc où le perso se noie avec le. Enfin, t'as des trucs assez stressants. Maintenant, moi, j'ai pris plaisir de m'y retrouver, enfin, de retrouver le jeu aujourd'hui dans des conditions plutôt confortables. Ah, je vois Erwan qui grimace.
Oh là là.
Ah, non,
oh
t'as bloqué.
Ah, mais en fait, moi, mon problème, c'est que je suis pas contre hein, Onimusha. Bon, why not? Alors, d'une part, ça se sent bien que Capcom, il fait là une sorte de. Il jette des petits trucs à l'eau pour savoir si ça va mordre.
Bah, c'est un test pour voir si Onimusha est toujours viable ou pas.
C'est une grosse tendance des éditeurs japonais qui découvrent le marché PC et qui font. Mais en fait, on peut ressortir tous nos anciens jeux en version remasterisée. On a eu Killer 7 il y a pas longtemps aussi.
Le problème, c'est que le Beat Zero.
Ah, bah, il a pas vieilli comme Killer 7. On n'est pas sur les mêmes canons.
Ouais, et puis, en fait, on est sur un canon de Beat Zero de base. C'est.
Beat Zero, aventure. Enfin, c'est un mix. Bah oui, mais sauf que.
Alors, on va faire la comparaison. Là, le problème, c'est qu'il ressort. Alors, certes, il ressort pas à un prix à 60€, évidemment. Mais 20. Mais on voit ce qu'est devenu le Beat Zero. Le Beat Zero, c'est devenu God of War. Voilà. La référence du ouais, tu peux pas comparer. Si tu peux comparer parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire un personnage qui marave des monstres et qui a une évolution
c'est exactement le même modèle, donc
il est proprement injouable et en plus il est ultra court, il dure je sais pas
5-6 heures quand tu fais, si tu bloques pas sur une énigme un peu corsée. Non 5-6 heures,
je la trouve chelou ta critique, Arwan, parce que c'est la ressortie d'un jeu adapté, on va dire, au format aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ses
erreurs? Non, moi ce que je reprocherais, je suis d'accord, moi je pense que c'est important qu'un titre comme ça soit dispo.
Ouais, sauf qu'il y en a plein qui ont Killer 7 n'a pas ça parce qu'il avait une identité, parce que tu peux pas le comparer
si la vieille Killer 7.
Oui, mais tu pouvais pas le comparer à quelque chose d'aujourd'hui.
Mais tu peux pas juger un jeu à l'aune de ce qui sort après.
Non, puis tu peux pas le comparer à God of War. Pour moi, c'est pas du tout. Moi, je le vois vraiment dans la filiation. C'est dans l'histoire de Resident Evil et de Capcom qu'il est intéressant dans ce qu'il a pu expérimenter à l'époque, d'ouvrir une saga. Je pense qu'effectivement, c'est un test de Capcom de sentir un peu les réactions sur Onimusha et de dire est-ce qu'il y aura pas un revival. On aura peut-être les deux épisodes suivants qui vont aussi ressortir en remasterisé. Moi, ce que je regrette plus, c'est qu'il n'y ait pas de
la tête de Jean Reno en HD. Allez, non, on a
ça,
13
si,
ans.
Si valide, hein, Reno, mais ça, c'est à voir. Non, moi, c'est un jeu qui a son ambiance. Bah, il a vieilli, évidemment qu'il a vieilli. Il a son ambiance, il a son style. Ouais. Je trouve qu'à l'époque, il avait beau être dans l'affiliation Resident Evil, il avait une identité propre. Il apportait quelque chose. Et ça, je trouve qu'il a beau avoir 17 ans, je trouve qu'il tient bien la route, visuellement. Je trouve qu'il tient bien la route au niveau de l'ambiance. Il a quelque chose.
C'est compliqué. Hein.
Mais j'ai envie de dire, quand tu achètes Onimusha en 2019, tu sais à quoi t'attendre. Enfin, tu le sais, hein, le contrat est clair. Mais... c'est pas un jeu full price. Moi, ce que je regretterais plus, c'est qu'il n'y ait pas. C'est qu'il y a pas. Oui, bon, après, tu peux attendre
ça
une promo.
Reste 20 balles,
moi, ce que je regrette plus, c'est qu'il n'y ait pas de contenu, tu vois, de making-of. Moi, j'aurais voulu avoir un peu, tu vois, des choses...
ça, d'accord, ça, c'est vrai.
Tu vois,
ça,
des interviews des développeurs, tu vois, des trucs comme ça. Ça m'intéresserait d'avoir des artworks.
Comme ce qu'ils ont fait avec les Megaman.
Exactement, ça, c'est ça qui me manque plus, tu vois. Parce que moi, voilà, je
mais écoute, moi, je trouve que c'est...
c'est toujours bien qu'un jeu soit remis à dispo.
Mais remis à dispo, why not?
Un petit peu dépoussiéré, en plus. Enfin, je trouve que c'est franchement...
Il a vieilli à tous les niveaux. Il a vieilli au niveau du gameplay. Il a vieilli au niveau de l'ambiance, il a vieilli au niveau du design, il a vieilli à tous les niveaux.
C'est une proposition, tu sais à quoi t'attendre. Moi, j'ai envie de dire, s'ils peuvent nous faire ça avec, tu vois, Dino Crisis 1, 2 et même 3, qui est devenu très rare, c'est un nanar absolu le 3 hein, dans l'espace, rappelez-vous, les dinosaures dans l'espace,
rappelez-vous,
c'est
pas
cultissime,
du tout.
Il était sur un exclu Xbox, il est dur à trouver aujourd'hui. Moi, ressortez-les, puis tu les prends, tu les prends pas, c'est toi qui choisis, et c'est une proposition qui est là, et pourquoi pas.
Voilà. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est pas, mais pourquoi pas?
De toute façon, c'est old school. Bah,
après, on peut se poser la question, est-ce que le prix est justifié, tout ça?
Après, voilà, c'est une autre question.
Mais honnêtement, ce genre de jeu-là, dans un an, il prend des soldes, il est à 10 balles.
Bien
hein,
sûr.
Voilà.
Et là, bah, tu te
fais
un peu. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas l'argent, le problème, c'est le temps. Tu vois, c'est...
Non, mais bien sûr.
T'as d'autres choses à jouer.
Il y a plein de Patrick dehors qui ont joué à l'époque, qui trouvent ça cool.
Pourquoi dehors?
Bah, est-ce qu'ils ont faim, les pauvres?
Bah, dis donc.
Non, mais. Il y a plein de gens comme Patrick qui ont
dans la rue, dans
les réseaux, la campagne,
qui
ont joué à l'époque, qui veulent peut-être aussi se remémorer,
qui ont ou des gens qui sont peut-être même nés après.
Et tu sais quoi, j'irais même jusqu'à dire, ça participe à l'archivage du jeu vidéo, mais de les ressortir comme ça.
D'accord.
Des gens qui sont nés après,
ça n'a aucun intérêt. Sauf celui-là.
Je pense que Patrick, c'est ce qu'il dit. Hein.
Sauf que, par exemple, on avait évoqué la même chose avec les trucs Neo Geo, le côté un peu archivage, le côté un peu. Neo Geo, ça a un intérêt. Ça a un intérêt en termes de. Aujourd'hui, ça se joue encore.
À la différence.
Non, ça se joue pas, je suis désolé.
Ça se joue pas.
En dehors de la nostalgie, ça se joue pas.
À la différence qu'une console Neo Geo est un objet physique qui va pas forcément aider à l'archivage, alors que là, c'est un truc qui est mis sur un store important.
Ça n'a pas d'intérêt.
Aïe.
Encore une fois, c'est un titre fait partie de l'histoire Capcom.
Pour une fois, je suis d'accord sur un trip rétro avec Patrick, alors que j'ai même pas joué au jeu. Non, mais d'habitude, ça me fait un peu soupirer ce genre de choses, mais que Capcom décide de les ressortir un peu pour les immortaliser, ça me choque zéro, quoi. Ça me choque pas.
Très bien.
Un retour de Nimusha dans d'autres circonstances.
On a eu Shenmue aussi il y a pas longtemps. Comme ça, tu vois.
Bah oui, exactement. Mais oui, tout à fait.
Sérieux. Alors, j'étais sur le point d'arrêter. Non, mais tu vas pas comparer. Mais sérieusement.
Alors, ne me remerciez pas, chers auditeurs, pour les minutes en plus.
Non, mais sérieusement. Non, tu peux pas dire ça. Shenmue, ça a un impact. C'est une pierre angulaire de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Shenmue, aujourd'hui, quelqu'un qui joue à GTA V, il lui a un intérêt.
Shenmue, quand il rejoue aujourd'hui, c'est un peu raide. Hein. Ouh là là, ça pique des fois.
Oui,
hein,
il a vieilli, mais il fait partie de l'ADN du jeu vidéo.
D'accord, ça.
Donc ça te permet de comprendre.
Onimusha,
tu comprends rien. Onimusha, t'es là, il y a des gens qui ont déjà joué à ce jeu-là à un moment. T'imagines un mec de 17 ans qui joue à Onimusha.
Bah, il a le droit de s'intéresser à ce qu'il y a eu avant Resident 4 et de comprendre.
Alors, moi, je suis avec toi, mais c'est pas la cible. C'est pas la cible de ce truc.
Ouais, mais sauf qu'un mec de 17 ans ou une nana, évidemment, qui joue.
Un type de 17 ans, il joue à Fortnite, qu'est-ce que tu racontes là?
Mais non, mais.
Tu vas lui mettre Onimusha, il va pas comprendre.
S'il joue à Shenmue,
il va saigner des yeux.
S'il joue à Shenmue, il va comprendre une partie de l'histoire du jeu vidéo. S'il joue à Onimusha, il comprend rien. Voilà, c'est bref.
Ah, il est sans pitié.
Hein. Oh, non, mais j'étais sur le point d'arrêter. Bref, c'est fini avec cette semaine, avec le jeu vidéo.
On va pas voir Resident Evil là, mais après ça, franchement.
c'est la semaine prochaine, on parle de Resident Evil 2 ou la semaine d'après, je sais plus.
Soit celle-là, soit celle d'après.
C'est un peu juste, la semaine d'après. Allez, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Allez, c'est la dernière fois que je vous en parle. C'est terminé, je l'ai vu, Creed 2, ça y est, je l'ai vu, j'ai assisté à cette avant-première anthologique au Grand Rex à Paris. C'était alors grand écran large, donc rediffusion de Rocky 4 suivi de Creed 2. C'était un bonheur absolu, enfin de revoir Rocky 4 dans des conditions pareilles, c'était terrible. Et alors moi j'ai craqué parce que Creed 2, alors il s'appelle Creed 2 évidemment, c'est la suite de Creed, mais c'est surtout en fait pour moi c'est Rocky 4.5, c'est la suite de Rocky 4, c'est le retour inespéré de Ivan Drago qui revient. Et c'est marrant parce que ça répond à pas mal de questions que je me posais depuis le milieu des années 80 et ce combat d'anthologie en Russie à la fin de Rocky 4, et je m'étais toujours demandé que devient ce mec après ce combat, que devient ce type après cette fait casser la figure par un Américain en Russie. Donc on a des réponses sur tout ça et vraiment c'est un bon film, alors qu'il peut paraître un peu creux comme ça d'apparence dans sa mécanique.
Je crois que c'est un peu la conclusion dans nos ciné il y a un consensus sur
la structure du film qui est très Rocky 3 dans l'âme avec le perso, bon je vais pas spoiler, mais il y a beaucoup de sujets abordés dedans sur le passage de relais, sur le rapport père-fils. Et puis moi, je trouve que Dolph Lundgren, il crève l'écran à chaque apparition. C'est marrant parce que Dolph Lundgren, évidemment, c'est Rocky IV, c'est le film qui l'a fait exploser. Il a enchaîné un nombre incroyable de nanars. Le mec, on le voit dans des films, en direct ou vidéo, que tu vois sur le câble, il a aucun intérêt. Là, il a l'écran, c'est pas le Dolph Lundgren des séries Z, c'est Ivan Drago. Et ça lui apporte un truc à l'écran incroyable, de retrouver ce personnage de plus de 30 ans après, avec cette revanche qu'il veut prendre sur Rocky, etc. Et voilà, enfin moi, j'ai surkiffé. Et c'était un film inespéré, je trouve, d'avoir une suite de Rocky IV, qui est quand même le film le plus 80s qui existe. Ouais. C'est le film, c'est le film qui synthétise pour moi les années 80.
Dans la saga, il est considéré comme bien. Je connais pas du tout
Rocky. Le 4, c'est, je crois que c'est le plus grand carton en entrée, mais il est souvent conspué parce que c'est film de, voilà, de propagande américaine. C'est le fruit de la guerre froide.
Ouais.
Et même en termes de plastique.
Mais à la fin, ils sont potes.
Mais lui, il annonçait quelque part la suite des événements, la fin de, et la fin de Rocky 4, tu l'as pas vu?
J'ai vu aucun Rocky, je connais pas trop cette.
Alors
saga.
Ne commence peut-être pas par le 4, mais il faut que tu vois.
Je pense que si je regarde Rocky, je commencerai par le 1.
Patrick, ça me fend le cœur de te couper quand tu parles de Rocky 4, mais à un moment.
Bon.
Il est bien ou pas Creed 2 du
alors,
coup, il est bien.
Je pense qu'il faut avoir un bagage Rocky 4 pour vraiment. Mais ça, vraiment, moi j'ai adoré. Et puis voilà, Stallone, Lundgren réunis. Moi, tu les aurais filmés pendant une heure et demie en train de discuter. J'aurais déjà été ravi. Mais là, il y a pas que ça. Il se passe des choses. Et puis les combats, il y a des vraies scènes de tension. Et quand tu vois, j'ai retrouvé cette tension particulière quand tu vois un film de la Rocky, parce que c'est une déclinaison, mais ça sale.
Continue, Patrick. J'ai envie de le punir
J'arrête. Non, mais quand tu le vois. Un de ces films pour la.
J'en peux plus.
Quand tu vois un de ces films en salle pour la première fois, il y a un truc dans la salle qui est très particulier à la saga.
Surtout là, toi, t'as vécu de la full expérience. Avec.
Et il se passe un truc dans la salle où t'as vraiment un rapport très particulier à la scène de combat que tu vis avec tes tripes quand c'est en direct et que tu découvres le film. Et moi, je l'ai vécu dans la salle. C'est un moment inoubliable.
C'est détournement de podcast là.
Pardon.
Vous êtes pris en otage.
Je ne vous parlerai plus de les deux. Non, mais c'est quand même une page qui se tourne. Non, j'en reparlerai plus.
Ah non, mais je pense au nombre d'auditeurs qui vont voir comment ça un épisode de 8h30, je comprends pas.
C'est la GDQ façon façon silence on joue.
Merci Patrick.
De rien, c'est un plaisir.
Oh, tu vas nous le fâcher, Erwan.
Mais non,
pas du tout. Je comprends.
Corentin.
Moi, c'est tout autre registre. C'est le journal d'un ingénu. Le Spirou, vous savez, ce petit Spirou un peu particulier qu'on voit parfois quand on va dans les librairies. Alors, c'est celui d'Émile Bravo qu'il avait sorti en 2008. Alors, je lis en ce moment, tout simplement, parce que la suite est sortie il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle L'espoir malgré tout, que je suis en train de lire présentement, donc je vous en parlerai peut-être dans une autre émission. C'est édité chez Dupuis. Alors, ça raconte les débuts de Spirou, finalement, depuis l'orphelinat dans lequel il était jusqu'au Moustique, l'hôtel où il travaille juste avant la Seconde Guerre mondiale, où il va, c'est un brave garçon, Spirou, mais il y connaît pas grand chose à la vie, que ce soit qu'est-ce que c'est être adulte, pourquoi ça commence à vraiment être la merde en Europe, d'autant que son hôtel en fait a été choisi pour des réunions secrètes entre l'Allemagne nazie et des diplomates polonais qui font tout pour éviter la catastrophe. Et du coup, Spirou va être un petit peu embarqué dans cette histoire-là. Il va entendre des choses qu'il ne devrait pas entendre. Mais lui, c'est vraiment un gamin. Il n'a aucune idée. Lui, il est en mode Belgique. Yeah, on est les plus forts, on est les plus gentils. Il se passe des choses graves, quoi. Il va rencontrer donc Fantasio, qui est un journaliste ultra. Médiocre, c'est une médiocrité incarnée, ce garçon cette BD. Il va rencontrer aussi une jeune femme dont on ne connaît pas le prénom, mais qui travaille avec lui à l'hôtel et qui, elle, par contre, semble avoir des liens avec le communisme, tout ça. Peut-être qu'elle a une double vie, peut-être qu'elle a un rôle un peu plus important dans la big pictures que ce pauvre Spirou qui est plutôt, on va dire, un détail du contexte plus que vraiment l'acteur de ce qui est en train de se dérouler aux portes de la Seconde Guerre mondiale. C'est en été 39, on est vraiment aux portes de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est super cool. Le trait est vraiment fin. C'est de la ligne claire modernisée. Mmh. C'est magnifique. Les dialogues sont... Il y a une tradition franco-belge qui est cool. Je me dépêche, Erwan. Il y a une tradition franco-belge qui coule dans les gags,
Erwan, il est plus là,
dans les dialogues. Mais vraiment, c'est de la franco-belge modernisée et ça fait vraiment plaisir d'avoir Spirou de cette manière-là, de manière très mature. Je recommande à tout le monde de lire ça. Et puis, je reviendrai pour vous parler donc de L'espoir malgré tout, qui se passe cette fois-ci en début de la Seconde Guerre mondiale, pendant que la Belgique est attaquée. C'est très intéressant.
Merci. Du coup, moi je. Alors, oui, je vais quand même prendre le temps parce que j'ai découvert. Alors,
on a plus le temps. Merci à tous.
Non, mais c'est juste, peut-être c'est le dernier. Non, parce qu'ils en font d'autres de bien que je n'ai pas encore découvert, mais c'est encore un podcast local, de chez nous. Parce que ça faisait longtemps que je voyais passer, puis ça ne m'avait pas intéressé a priori. Et je me suis quand même mis à bientôt de te revoir.
À bientôt.
Trop bien, au bon moment, Quentin. Donc, c'est le podcast de Sophie-Marie Larouille qui invite sur son canapé une personnalité, un acteur, un comédien, un homme politique, c'est déjà arrivé, et qui part dans une interview assez inattendue, de fait, parce que ça, voilà, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où elle va. Est-ce elle où elle va ? On ne sait pas. Et en fait, je me retrouve dans le métro à rigoler enfin, mais vraiment à me marrer. Je dois avoir l'air tellement stupide, à éclater de rire dans le métro, tu sais, aux heures de.
T'as un casque ou pas?
Bah oui, avec un casque.
Ça, on voit que t'as un casque. Oui, tu rigoles pas comme ça.
Mais voilà, je me demande à quoi je ressemble. Mais en tout cas, voilà, il y a des épisodes très drôles dernièrement.
On a la vidéo, c'est parti.
Dernièrement, elle a invité une de mes humoristes préférées, qui est Marina Rollman. Voilà, c'est un des derniers épisodes. Et voilà. Et donc, c'est vraiment très très bien. En plus, je suis content. J'en ai plein à rattraper, donc c'est cool.
Tu vas beaucoup rire dans le métro.
Donc ça s'appelle À bientôt. De te...
Si vous croisez Erwan dans le métro, vous voilà. N'hésitez pas. C'est...
Allez voir, hein, ligne quoi, ligne 7
13.
À 13 et 8. Quelle heure ? Vous allez voir un type qui rigole tout seul.
13 et 8. Voilà, merci. C'était long, mais c'était le début de l'année. C'était pour les retrouvailles. C'était normal, on avait tellement de choses à se dire. Et merci Quentin Bresson à la réalisation de cet épisode. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine sur Libération, sur Binge Audio et sur les internets. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.